et qui a lancé la vogue de ce qu'on appelait le spaghetti western, appellation que le réalisateur Sergio Leone détestait. C'est un film qui était une révolution à l'époque pour des raisons d'ordre esthétique, des raisons d'ordre moral et des raisons d'ordre historique, comme je vous le disais tout à l'heure. On y reviendra. Alors, le thème est pourtant on ne peut plus simple. Vous avez un cavalier solitaire qui arrive dans une ville perdue aux confins du Texas et du Mexique. On est à la frontière. Et dans cette ville, qui est une véritable ville fantôme, il y a deux bandes qui s'affrontent. Une bande de Mexicains, qui sont les Rojos, et une bande d'Américains Wasp, qui sont les Baxter. Les uns et les autres font du trafic d'armes, d'alcool. Et ce personnage énigmatique, qui dans le film original s'appelle Joe, mais qu'on va bientôt rebaptiser l'homme sans nom, ce personnage arrive au milieu de ces deux bandes. Il va se faire tour à tour engager par l'une et par l'autre. Il va donc tirer profit de la situation pour ramasser un maximum de dollars. Et comme c'est un personnage absolument cynique et sans morale, il n'hésite pas à tuer froidement et à faire de l'humour noir sur les cadavres qu'il vient de créer. Et en plus de cela, ce personnage semble totalement indifférent à toute humanité. Alors vous comprenez qu'on est loin du héros de western traditionnel. Pourtant, évidemment, il y aura quand même, malgré tout, un personnage féminin qui va l'attendrir et auquel il va apporter petit à petit secours. Mais ça, je dirais, à la limite, c'est plus pour faire plaisir aux spectateurs et pour avoir un rôle de femme dans le film que pour véritablement, je dirais, donner une validité quelconque au personnage. Et pourtant, ce personnage-là, malgré tout, on y reviendra et ce sera la séquence qu'on va étudier, peut présenter derrière son masque de marbre un certain aspect humain. Ce film, d'ailleurs, vous le savez, va lancer Clint Eastwood, qui va faire la carrière que vous connaissez, puisque maintenant, à 94 ans bientôt, il va avoir 94 ans le 30 mai, il est encore en train de tourner un film. Si ça se trouve, on va voir ce film au Festival de Cannes. C'est tout à fait possible. Hein? Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous montre le générique. Après, j'en viendrai à la bibliographie qui m'a été demandée, à la vie de Sergio Leone, à la conception de l'affiche, à l'aspect révolutionnaire de ce film dans d'autres détails que celui du générique, et évidemment aux différentes séquences que vous pouvez évoquer avec vos élèves. Et je terminerai avec toutes les pistes pédagogiques que vous pouvez avoir. On n'aura pas le temps de tout étudier, mais vous partirez avec les documents nécessaires. Hein. Alors, les documents, Céline, ils sont disponibles déjà sur le
Non,
site.
je les ferai.
Après, comme toujours, oui.
Voilà, comme toujours, j'ai mis à disposition après la journée de formation.
Voilà. Et si jamais il y avait le moindre problème, vous appelez Madame Berthaud ou bien vous m'écrivez à l'adresse que je vous ai indiquée. Et à ce moment-là, je vous renverrai le tout par WeTransfer. Donc, le générique. Pour une poignée de dollars. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce film, dans ce générique? Apparemment, rien qui puisse nous retenir. En fait, c'est une véritable révolution, comme je vous l'ai dit, parce que ce film-là nous présente dans le générique quelque chose qui n'est absolument pas commun. D'abord, c'est que dans ce générique, vous avez un fond qui est un fond rouge, comme je l'ai intitulé, couleur sang. Déjà, c'est une sorte de provocation de la part de Léon. Ensuite de cela, traditionnellement dans le western américain, ce qu'on vous présente dans un générique de western, c'est plutôt un immense panorama, naturel bien entendu, dans lequel vient s'inscrire la silhouette du héros qui descend de la colline pour aller vers la ville, ou inversement, et donc on montre un personnage qui est en totale cohabitation, est en totale cohésion avec la nature. Ici, absolument pas. Et ce que fait Léon, c'est qu'il se contente de montrer ce qui, dans un western, n'est qu'une partie du western, c'est-à-dire, un, les cavalcades, deux, les duels, voire les massacres. Or, dans un western américain, traditionnellement, quand il y a une bataille rangée ou quand il y a un duel, c'est quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Et souvent, le duel, pour le héros, c'est la preuve d'une impuissance à régler un problème quelconque autrement. Or, ici, dans les westerns de Léone, dès le générique, le duel devient un prétexte en soi, et c'est ce qui a fait scandale dans les années 60, parce qu'on a trouvé que la violence du western américain, si elle était justifiée, dans le western, je dirais pas italien, mais européen, parce que ce sont des films de coproduction, en général c'est germano-italo-espagnol, dans ces films italiens ou européens, le duel, le massacre deviennent une fin en soi. Et à ce moment-là, tout ce qui peut fonder le duel, du point de vue moral ou du point de vue narratif, devient, je dirais, simplement un spectacle de grand guignol. Vous voyez ? Et cela a horrifié les critiques et une partie du public. Il faut savoir que pour une poignée de dollars, dans les premiers jours de sa projection, a été interdit au moins de 18 ans. Hein. Bon, cette interdiction est tombée très rapidement, mais quand j'étais gamin, à l'âge où donc vous allez emmener vos élèves, ce film était interdit au moins de 13 ans quand même. Et Le Bon, la Brute et le Truand était interdit au moins de 18 ans, et pour quelques dollars de plus, était interdit aussi au moins de 18 ans, parce que c'est la première fois dans un western qu'on voyait un tueur consommer de la drogue. Vous voyez, il ne faut pas oublier que dans les années 60, aux États-Unis, il y avait le fameux code ACE. Donc, premier élément, ici, on vous présente dans le générique des duels et des massacres, à un point tel même qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous avez deux personnages qui semblent se battre en duel et en fait, ils sont abattus par quelqu'un d'autre qui est hors champ. Donc, on est bel et bien dans du grand guignol. Deuxième élément, technique, là maintenant, vous avez un générique qui est animé par rotoscopie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la rotoscopie ? Alors, si vous allez à Cannes cet été, vous savez que tous les ans, au mois de juillet et au mois d'août, il y a ce qu'on appelle le musée éphémère du cinéma à Cannes, dans le Palais des Festivals, et vous aurez cet été un atelier de rotoscopie. La rotoscopie consiste à ce qu'on demande à des acteurs de jouer une séquence, on les filme, et ensuite, sur la pellicule filmée, on découpe les silhouettes et on les transforme en personnages de dessin animé, on dirait plutôt aujourd'hui d'animation. Alors, c'est exactement le procédé qui a été utilisé ici, sauf que traditionnellement, quand on dessine un personnage en rotoscopie, une fois qu'on en a découpé les contours, on remplit l'intérieur du personnage avec de nouveaux traits de visage, ou alors on représente les traits originaux, mais sous la forme de dessin. Or, ici, on garde les silhouettes. C'est-à-dire que non seulement on vous présente un jeu de massacre, mais en plus de cela, on vous présente des personnages qui n'en sont pas, c'est-à-dire qui sont complètement désincarnés. Et le jeu de massacre dont je vous parle se trouve d'autant plus souligné par cela. Vous voyez ? Donc, automatiquement, par ces deux procédés, l'accumulation des duels et des coups de feu qui ont été ajoutés, surajoutés dans la bande-son, le fait que les personnages sont rotoscopés et anonymés par la même occasion, cela crée une sorte de distance voulue par rapport au western américain traditionnel classique. Vous voyez ? Et cela, vous pouvez le faire sentir à vos élèves simplement en leur posant les questions suivantes. Un, qu'est-ce que tu entends ? Alors, évidemment, la musique, nous y reviendrons tout à l'heure, mais les coups de feu. Deux, qu'est-ce que tu vois ? Trois, quelle est la couleur dominante ? Quatre, est-ce qu'on voit toujours les tireurs ? Pas toujours. Et à partir de ces questions-là, vous leur apprenez ce qu'est la rotoscopie. Si vous ne leur apprenez pas, ce n'est pas grave. Vous dites, c'est de l'animation. Et à partir de là, vous leur expliquez que dans un western traditionnel, ça ne fait pas cela qui se procède. Alors, il faut savoir que ce qui va rendre votre travail pédagogique un peu délicat, c'est que quand on interroge un élève actuellement, le western lui est totalement inconnu. Mais si il vous cite un titre de western ou un nom de réalisateur, ça sera ou Le Bon, la Brute et le Truand ou Sergio Leone, mais en aucun cas un film de John Ford, alors que les films de Leone sont des films qui, au départ, ont été rejetés par la critique et ont été extrêmement méprisés. Vous voyez ? Et Eastwood lui-même a été extrêmement méprisé jusqu'au début des années 90-2000. Parce que les critiques français et américains a fortiori, le considéraient comme un acteur inexpressif, mauvais et fasciste. Moi, je me souviens, dans les années 90, quand je m'intéressais aux films d'Eastwood, et particulièrement impitoyable, mes collègues me regardaient en me disant « mais il est complètement fou et il aime un acteur nul et un réalisateur nul et un acteur fasciste ». Bon, or, c'est la critique française qui a réhabilité Eastwood, et c'est grâce à la critique française des années 90-2000 que Eastwood a acquis son statut de réalisateur essentiel du XXe et du XXIe siècle. Donc, vous comprenez, il y a aussi toute une part culturelle qu'il va falloir que vous expliquiez à vos élèves en leur faisant comprendre qu'ils ont affaire ici à un western qui n'est pas classique, mais totalement révolutionnaire dans la forme et dans le fond. Voilà. Ça va jusqu'à présent? Alors, je vais vous montrer maintenant la suite. Donc, ici, vous avez une présentation d'un des personnages principaux, qui est le personnage féminin qui s'appelle Marisol dans le film et qui est interprétée par une actrice allemande qui s'appelle Marianne Koch. Cette actrice était connue dans les années 60. Elle avait commencé à faire des études de médecine pendant 5 ans, puis elle s'est tournée vers le cinéma et le film Pour une poignée de dollars va relancer sa carrière. Elle était très connue en Allemagne, mais le film Pour une poignée de dollars va lui assurer une carrière internationale. Elle va la quitter à l'aube des années 70 parce qu'elle va décider de revenir à la médecine. Et de nos jours encore, elle a 91 ans, 92 ans, elle continue à tenir des sites internet sur la médecine. Elle va devenir une spécialiste de médecine. Vous voyez, comme quoi le cinéma mène à tout. Et le film va lui relancer sa carrière alors qu'elle ne dit pratiquement qu'une phrase ou deux dans tout le film. Mais tout passe par le regard. Et souvent, justement, et on y viendra tout à l'heure quand on analysera une autre séquence, c'est une des spécificités du cinéma que de faire exprimer des sentiments par les yeux ou par les rides du visage, par ce qu'on appelle la microphysionomie. Et Léon, j'y reviendrai tout à l'heure, disait que pour lui, le visage était un paysage. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il utilise tellement le gros plan. Bon, là, je ferme la parenthèse, hein, c'était juste de l'anecdote que je viens de vous dire. Ce qui m'intéresse ici, c'est la présentation de la situation. Donc, on comprend que le petit gamin veut voir une jeune femme. On comprend que certainement cette jeune femme est sa mère et qu'elle est prisonnière de vilains méchants. Vous avez vu la grosse brute qui tire dans les pieds du petit gamin et qui ensuite le roue de grands coups de pied. Cette grosse brute, vous la retrouvez justement dans Le Bon, la brute et le truand, puisque c'est le même acteur qui inflige à Eddie Valak une correction monumentale dans un des camps de concentration, je dis bien de concentration, qu'il y a dans le film. Vous l'avez peut-être vu, Le Bon, la brute et le truand, hein, je pense. Hein, voilà. Donc, tout de suite, quand on voit cette grosse brute qui est manifestement une caricature du bandit mexicain avec le sombrero et les cartouchières croisées en X, on voit tout de suite que cette grosse brute aperçoit le héros. On comprend tout de suite que le héros, c'est Clint Eastwood. Et on s'attend à ce que le héros intervienne. Qu'est-ce qu'il fait, le héros? Rien. Il observe. Il fait comprendre ostensiblement aux autres qu'il n'est pas là pour se battre et que ce qu'il se passe sous ses yeux lui importe peu. Et quand il regarde la jeune femme, le seul sourire qu'il lui adresse n'est pas un sourire de compassion, c'est un sourire de désir. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, il y a mieux hein, comme héros, honnêtement. Donc ici, je pense toujours à vos cours de collège, si vous avez une séquence pédagogique sur le thème du héros, vous avez l'exemple type de ce qu'est l'anti-héros. Totalement l'inverse. Bien plus, je vous disais tout à l'heure que dans le générique, traditionnellement, on voit apparaître le personnage western s'inscrivant dans un grand espace. Je n'ai pas dit que c'était le cas tout le temps, je parle de généralité, hein. Bien sûr. Vous allez trouver toutes sortes d'exceptions à m'opposer. Bon. Ici, le personnage n'est pas filmé, je dirais, dans l'espace lui-même. Ce que filme Léon au début, ce sont des espaces blancs qui font la suite du générique. On passe du soleil au sol brûlé du Mexique et on voit les pattes, non pas du cheval, mais d'un mulet. Alors imaginez Gary Cooper ou James Stewart ou John Wayne arrivant sur un mulet. Hein, voilà. Et en plus de ça, ce héros blanc est affublé d'un poncho qui est typiquement un vêtement mexicain. Alors le poncho, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il a toute une histoire. Au départ, dans le scénario original, il y avait une explication à l'origine du poncho. Et cette explication a été évacuée par Sergio Leone. Et c'est très intelligent parce que ça crée une impression d'étrangeté pour le personnage qui, au départ, avait une explication logique et qui, ici, n'en a plus. et ça renforce son aspect totalement atypique. Vous voyez ? Bon. Alors, tout cela doit faire ressortir aussi deux autres éléments sur lesquels je vous demande d'être très attentif avec vos élèves, c'est de faire attention à la bande-son. Je vous ai expliqué que dans le générique, il y avait des coups de feu qui étaient ajoutés sur la musique. Ces coups de feu ne font pas partie de la bande originale du film. Et il faut savoir que Léon était tellement maniaque qu'il demandait à ses ingénieurs du son d'aller dans des endroits, évidemment, où il n'y avait personne, et d'enregistrer le bruit des coups de feu, sachant que chaque arme a un coup de feu différent, si vous voulez. Et on ajoutait cela en post-synchronisation. Et à côté de cela, vous avez peut-être entendu l'insistance sur tous les bruits d'atmosphère, d'ambiance, c'est-à-dire la cloche qu'on entend au loin, le bruit des sabots, la porte qui se referme, les grincements, l'eau, etc. Léon est quelqu'un qui est très précis sur les sons parce qu'il a parfaitement compris que le son a une double fonction au cinéma. D'abord, il a une fonction naturaliste. On a souvent insisté sur le caractère vériste, naturaliste des films de Léon. Et donc cela, il faut que vous l'expliquiez aux élèves, leur faire comprendre que le son est très important au cinéma, quel que soit le film, mais particulièrement dans certains films, et qu'il est d'autant plus important que, d'une part, il nous apporte des informations sans que nous y prêtions attention, et d'autre part, parce qu'il est un moyen de nous manipuler bien plus encore que l'image. Vous voyez ? Et donc, on peut jouer avec les nerfs du spectateur grâce au son. Vous avez vu, je pense, le début, il était une fois dans l'Ouest, par exemple, hein, si ça vous dit quelque chose. Bon. Ensuite, à côté de ce vérisme, donc, vous avez cette volonté de manipuler le spectateur qui l'amène à ce moment-là dans un certain état d'esprit et qui, je dirais, renforce certains passages qui peuvent être soit grotesques, soit tragiques, soit lyriques, soit tout en même temps. Parce que l'un des éléments propres au cinéma de Sergio Leone, c'est ce que j'appellerais l'hyperbole, avec, je dirais, la volonté de rendre l'Ouest à la fois plus grand que le mythe et plus grotesque que le mythe en même temps, les deux en même temps. Vous voyez, vous avez une amplification parodique et une amplification de pastiche en même temps. Je reviendrai tout à l'heure sur la différence entre le pastiche et la parodie. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez faire ici avec vos élèves ? Eh bien, c'est déjà leur montrer le générique avec tous les éléments que je vous expliquais tout à l'heure. Et ensuite, quand vous étudiez la première séquence, vous travaillez par groupe. Mettons que vous ayez une classe de 30 élèves. Eh bien, vous demandez à une dizaine d'élèves de voir les différents éléments de l'image, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, dans quel type de paysage sommes-nous. À un autre groupe, vous demandez de travailler sur l'attitude du héros, à la fois dans son attitude physique et son attitude morale, si on peut dire. Et un troisième groupe, vous demandez de relever tout ce que l'on entend et vous leur demandez pourquoi. Et après, ensemble, vous essayez de faire une restitution pour essayer de faire comprendre que ces éléments ne doivent pas être séparés. Il faut les séparer pour l'analyse, mais ensuite, il faut les rejoindre pour la synthèse. Voilà. En fait, c'est une explication de texte que vous faites là, ni plus ni moins. D'accord ? Sauf que, et ça, c'est très important pour vous et pour vos élèves, c'est qu'une explication de texte, quand on la fait ligne par ligne ou vers par vers, elle suit chronologiquement le texte. Quand vous faites une analyse de séquence, vous pouvez la faire chronologiquement, mais le problème, c'est que vous ne pouvez absolument pas tout dire. Parce que quand vous faites une analyse de séquence, vous prenez un plan, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'un plan, est-ce qu'il faut que je vous le répète ? Ça va ? Hein, s'il y a des termes de vocabulaire que vous ne connaissez pas, vous me le dites. Bon. À l'intérieur d'un plan, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est parole, bruit, musique. Ce qu'on voit, ce sont les actions, mais c'est aussi, évidemment, l'absence d'action. C'est le cadre. Est-ce qu'on a un plan d'ensemble, de demi-ensemble, un gros plan ? Est-ce que le mouvement, c'est le mouvement du personnage à l'intérieur du plan ? Ou est-ce que c'est le mouvement de la caméra ? Ou est-ce que ce sont les deux ? Et s'il y a un mouvement de la caméra, à quoi sert ce mouvement ? Quelle est sa signification ? De la même façon que si le personnage se déplace, quelle est la signification de ce déplacement ? Vous voyez ? Et ainsi de suite. En d'autres termes, vous ne pouvez pas tout dire dans une analyse de plan et de séquence parce que Contrairement à un texte où les éléments vous sont donnés les uns après les autres, dans une séquence, les éléments vous sont donnés en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un travail sur la lumière, sur la couleur, sur le mouvement et sur le son, et vous avez tout cela, je dirais, ensemble. Et donc, vous êtes obligé de privilégier certains éléments quand vous faites une analyse de séquence, exactement comme quand vous posez des questions à vos élèves sur un texte en français, vous êtes obligé de sélectionner. Voyez, vous êtes tous en lettres ou est-ce qu'il y a des collègues d'autres sections?
En anglais.
Vous êtes en
anglais.
En anglais, oui.
En SECPA.
En SECPA. Et alors, bonne question pour l'anglais, parce que justement, vous êtes peut-être un peu déçu par le fait que je vous ai mis la version française et vous attendiez peut-être.
Voilà.
Non, mais c'est un choix. C'est un choix. Je vous explique pourquoi. Il n'y a pas de version originale. Quand on tournait un film en Italie à cette époque-là, chacun parlait dans sa langue. Le seul Américain, c'est Eastwood. Marianne Koch est une Allemande. Gian Maria Volonté, le méchant des méchants, est un Italien. Et la plupart des autres acteurs sont allemands ou espagnols. Donc souvent, quand on tournait, on disait aux acteurs, dites n'importe quoi, comptez 1, 2, 3, et on travaillait en post-synchronisation. Et donc, par voie de conséquence, la version italienne est la bonne, la version anglaise est la bonne, et la version française à laquelle moi je suis habitué depuis que je suis tout petit est la bonne aussi. Sachant que Léon lui-même, qui parlait parfaitement français, veillait à la post-synchronisation de ses films en français. Vous voyez ? Alors, petite anecdote, c'est que quand le film est sorti aux États-Unis, c'est-à-dire 3 ans après, il est sorti en 67 aux États-Unis. Eastwood était pris sur un autre tournage et on l'a appelé pour faire la post-synchronisation de son film aux États-Unis. Et lui, il ne voulait pas venir. Il disait, j'ai pas le temps, je viendrai un peu plus tard parce qu'il était sur le tournage d'un autre film. Et il a fallu que les distributeurs, les producteurs, le menacent de casser sa carrière aux États-Unis pour l'obliger à venir le lundi matin où il était convoqué. Parce que lui, il pensait que le film ne serait jamais distribué aux États-Unis. Et il espérait d'ailleurs qu'il ne le serait jamais. Parce que pour un Américain, les tournées en Italie ou en Espagne, c'était des choix et c'était aller sur une voie de garage. Vous voyez ? Il était bien loin de se douter que c'est ce film-là, au contraire, qui allait lancer sa carrière du point de vue international. Les choses ne tournent pas toujours comme on pense. Vous voyez ? Donc moi, j'ai choisi la version française, mais c'est la question que j'allais te poser. Céline, vous allez le voir en quelle version, vous, finalement, en anglais ou en,
ou en français ? C'est anglais sous-titré,
oui. En anglais sous-titré, oui. Bon. Alors, ce qui m'amène, puisque on parle anglais, vous avez vu le générique. Alors, le générique que vous avez là me gêne énormément parce que ce n'est pas le bon générique. Étant donné que dans le générique original, la musique d'Ennio Morricone apparaissait sur le nom de musique de Don Savio. Gian Maria Volonté, le méchant, s'appelait John Wells. John Wells, c'est la traduction anglaise de Volonté, voyez. Et Sergio Leone s'appelait Bob Robertson. Parce que son père, qui s'appelait Vincenzo Leone, avait un surnom qu'il avait pris, parce que lui-même était cinéaste au temps du muet, il s'appelait Roberto Roberti, de son nom de scène, enfin de cinéaste. Et donc Bob Robertson, c'est Bob, fils de Robert. Vous voyez ? Pourquoi tout cela ? Parce que les premiers westerns européens, et particulièrement italiens, avaient des génériques américanisés le plus possible pour faire croire que c'était des films américains. Or, comme le film a eu du succès, on a laissé le nom de certains techniciens avec leur pseudonyme anglais ou anglo-saxon, et on a mis le nom original de certains personnages très connus, comme Eastwood, enfin Eastwood gardait toujours son nom, bien sûr, mais comme Volonté, Léon et Morricone. Vous voyez, et donc les génériques tels qu'ils apparaissent ici, ce ne sont pas les génériques originaux. Je n'ai pas retrouvé le générique original, sans ça, je vous pensais bien que je vous l'aurais mis.
Mais hein. Peut-être sur la nouvelle copie qui est sortie.
Ah, mais les nouvelles copies, je les ai, non.
Non.
Ah oui, je les ai, non. Non. Alors, peut-être, parce que, si tu veux... là, j'achète la version 4K qui est sortie aux États-Unis, mais qui n'est pas sortie en France. Tu vois, actuellement en France, on n'a que les Blu-ray. Les versions 4K, c'est-à-dire haute définition Blu-ray HDR, elles n'existent qu'aux États-Unis. Alors, moi, j'ai acheté celle du Bon, la Brute et le Truand, mais il n'y a pas de version française dessus. Elles sont sous-titrées seulement. Et encore, il n'y a même pas de sous-titres français. Tu vois. Donc, je pense que vous aurez le vieux générique. Vous regarderez. Ouais, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez dans ce qu'on va vous projeter. Hein? Voilà. Bon. Donc, ceci fait que ce que je viens de vous raconter, vous pourrez éventuellement le dire à vos élèves, hein, bien entendu. Bon. Alors, maintenant, allons un peu plus loin. Vous comprenez que ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est le fait que ce film qui date de 64 est une coproduction italo-germano-espagnole, vous voyez. Et les deux producteurs, qui s'appelaient Arrigo Colombo et Giorgio Papi, étaient des Italiens, un peu escrocs sur les bords. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme il y a eu beaucoup de difficultés pour le financement du film, ce film qui au début s'appelait Re le Magnifique ou L'étranger magnifique, El Magnifico Straniero, en référence aux sept magnifiques, c'est-à-dire aux sept mercenaires, vous voyez. Le film va changer de titre, il va s'appeler Pour une poignée de dollars, parce que ça va être un trait d'humour de la part de Léon pour dire combien ça a été difficile de produire ce film. Bon. Et puis, comme il va être en procès avec les producteurs et qu'il va faire produire ses films par un autre après, il va nommer le suivant et pour quelques dollars de plus pour faire un pied de nez à Arrighi et pour Colombo. À Colombo et à Papi, pour leur dire ben, « je vais faire des sous, mais ça ne sera pas pour vous ». Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des « private jokes ». Voilà. Alors, au départ, vous avez parmi les scénaristes des gens comme Duccio Tessari ou Fernando Di Leo. Ce sont des gens qui étaient des amis de Léon, mais qui vont être aussi ses concurrents. Duccio Tessari va faire des westerns italiens comme « Le retour de Ringo ». Et Fernando Di Leo va mettre en scène dans les années 70 des films italiens noirs, extrêmement violents, qui correspondent à ce qu'on appelle les années de plomb. Ces gens-là, donc, tantôt travaillaient ensemble, tantôt, jouaient leurs cartes, chacun de leur côté. Ils allaient ensemble au restaurant et au café, et en même temps, ils étaient rivaux. C'était un petit monde, ce monde du cinéma italien dans les années 60. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'image qui est signée Jack Dalmas dans le générique, en fait, c'est le nom d'un Italien, Massimo Dallamano, qui va faire l'image et pour quelques dollars de plus, et qui après va mourir d'un cancer. Et de même, Carlo Simi, qui va faire tous les décors des films de Sergio Leone, y compris ceux d'Il était une fois dans l'Ouest ou Il était une fois en Amérique, qui est un très très grand architecte, Carlo Simi, eh bien dans le film, il va s'appeler Charles Simons, vous voyez, décrypter le générique à chaque fois. Bon. Alors, budget du film, 200 000 dollars, environ 150 millions de lire, salaire d'Eastwood, 15 000 dollars. Pour Le Bon, la Brute et le Truand, budget du film, 1 200 000 dollars, deux ans après, salaire d'Eastwood, 250 000. D'accord ? Alors, je vous dis tout ça parce que ça va vous permettre d'étudier avec vos élèves comment on devient star et comment le statut de star va se retrouver sur l'évolution des affiches. Voilà. Le total des entrées en France, c'est 4 800 000 entrées, c'est quand même beaucoup. À l'heure actuelle, pour vous situer les gros succès, les Trois Mousquetaires, le dernier opus, il est à 2,5 millions de spectateurs. Voilà. Vous savez que en général, quand un film maintenant dépasse les 4 millions de spectateurs, c'est un très très grand succès en France. Hein, bien entendu. Alors, si vous voulez bien, je quitte à un moment donné le PowerPoint et je vous montre les documents dont vous disposez. Voilà. Alors, ce que je vous ai mis dans le dossier que Mme Berthaud va vous faire parvenir. Vous allez d'abord avoir trois cartes sur les États-Unis. Par exemple, dans la carte de l'expansion territoriale, dans la carte de l'expansion territoriale que vous aurez dans le PowerPoint, vous voyez que l'action se déroule entre le Texas et le Mexique. Donc cette carte vous permet, avec vos élèves, de situer un petit peu les lieux de l'action. Pourquoi est-ce que la plupart des westerns européens se déroulent au Mexique ? Ben, pour une raison simple, ils sont tournés en Espagne pour la plupart d'entre eux. Donc, les paysages espagnols font plutôt penser au désert américain, à Monument de Vallée, qu'ils ne font penser, aux paysages verdoyants du nord de l'Amérique. Et par voie de conséquence, en plus, les figurants étant souvent des Espagnols ou des gitans même espagnols, c'est plus facile d'avoir des figurants mexicains, entre guillemets, que des figurants indiens. Vous voyez ? Bon. Ensuite, vous avez une petite fiche qui s'appelle l'évolution du genre pour le western, qui vous permettra de situer, je dirais, le film de Léon avec vos élèves. Vous avez un document sur le paysage dans le western, sur les lieux, le décor et le paysage dans le western. Mais surtout, ce que je vous invite à voir, c'est le document numéro 7, qui est un document dont vous pouvez prendre quelques extraits avec vos élèves, et qui vous explique que le western, d'une façon générale, pour les États-Unis, c'est l'équivalent de l'Iliade et l'Odyssée pour nous, Européens. En d'autres termes, le western, c'est la chanson de geste, c'est l'épopée que les Américains se sont créés eux-mêmes en inventant l'histoire de la conquête de l'Ouest et en présentant le héros Wasp comme quelqu'un qui amène, je dirais, la paix, la richesse, la civilisation face aux barbares que sont les Peaux-Rouges. Sauf que le mythe va se trouver très, très mal, très mis à mal à partir de la guerre du Vietnam. Vous voyez ? Donc expliquez tout l'aspect mythologique du western avec vos élèves en prenant un petit extrait de ce texte qui est tout à fait abordable. Hein. Ensuite, un document sur le visage au cinéma, ça c'est pour vous, j'y reviendrai tout à l'heure. Un document qui est la liste de tous les westerns qu'il faut avoir vus depuis le 1903, le premier grand western, pardon, voilà, jusque à, pardon, le document suivant numéro 2, qui est actualisé avec les frères Sisters de, bon, chaque fois ils vont me demander, les frères Sisters de Jacques Audiard, qui est un très très bon film, qui a d'ailleurs été tourné en partie sur les sites des westerns de Sergio Leone. Bon, sachant que pour moi, les films de Tarantino, qui sont de très grands films, hein, Django Unchained et Les Huit Salopards, ce sont des westerns postmodernes, néo-westerns. À mon avis, ce qui a enterré définitivement le genre tel qu'on le connaît, c'est impitoyable, le film d'Eastwood, indéniablement. Bon, si vous voulez, on en parlera, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait le temps. Puis, je vous ai donné un document sur le western européen et italien, mais décidément, voilà. C'est un texte que j'ai écrit pour le ministère il y a quelques années, et donc c'est l'histoire de tout le western européen qui a commencé par naître en Allemagne et en Yougoslavie avec la série des Winnetou, et vous avez ici la différente thématique de tous les westerns. Donc ça, c'est un document, je m'adresse en particulier à vous, qui peut vous être utile pour comprendre en quoi le western italien est fondamentalement différent du western américain. D'accord ? Et ça, ça peut vous aider dans toutes les matières que vous avez, y compris en SECPA. Hein. Je pense que pour les SECPA, vous avez là des documents qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez facilement, d'ailleurs, détacher des images en faisant un copier-coller. Voilà. Ensuite, vous avez une version courte du document que vous avez là, qu'éventuellement vous pouvez donner à vos élèves sous forme de fichier. Et puis, vous avez ici quelques éléments sur les westerns de Sergio Leone, qui est, je dirais, un document que j'avais fait paraître pour une conférence que j'avais donnée sur Sergio Leone à la médiathèque de Cannes. Donc, en quelques pages, vous avez quelques éléments fondamentaux. Et ça, si vous avez peu de temps, eh bien, vous utilisez ce document-là, ça vous suffira bien. D'accord ? Voilà, je pense toujours à vous qui n'avez pas beaucoup de temps pour préparer vos cours. Voilà. Et donc, ici, vous avez la même version, mais en texte. Bon, si vous voulez aller plus loin, pour les films de Léon, alors, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Voilà. Vous avez ici un diaporama sur tous les westerns, sur toute la cinématographie de Sergio Leone. Donc là, vous aurez de quoi faire sur l'ensemble de ces films, et vous pouvez utiliser cela si jamais vous voulez continuer la réflexion avec vos élèves sur Sergio Leone d'une manière plus générale, puisque ici j'évoque tous ces westerns. Voyez ? Donc, je vous ai mis le diaporama. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez découper les fichiers que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Bon. Alors, derrière, vous avez toutes sortes de documents sur ce diaporama et sur la conférence. Et surtout, vous avez ici... ici, un article. Ah, pourquoi il ne veut pas? Ah, il est peut-être là. Voilà. Pardon. Voilà. Voilà. Un article que vous pouvez utiliser en français pour discuter du film que vous aurez vu. Ça peut lancer soit une discussion, soit un travail de dissertation, enfin, disons, de réflexion sur le western italien, sur Pour une poignée de dollars, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est un texte qui démolit le western italien en disant c'est un jeu de massacre, il ne sert à rien, c'est gratuit, c'est vide, c'est sadique, c'est nul, quoi, comme diraient les élèves. Et ça, ça peut être intéressant, justement, pour leur montrer en quoi ce film, je dirais, est révolutionnaire. Vous avez là de quoi préparer un cours rapidement. Hein, voilà. Et puis, vous avez là un diaporama spécifique sur Il était une fois dans l'Ouest, parce que j'avais présenté le film dans une version restaurée au Cinéum de Cannes, et donc on m'avait demandé de faire une masterclass, enfin une leçon, sur Il était une fois dans l'Ouest. Donc vous pouvez utiliser ce diaporama. En particulier si vous avez décidé d'étudier avec vos élèves pour un travail sur le temps et sur le son, le générique d'ouverture Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, je vous expliquerai le cas échéant si vous le voulez. Vous avez de quoi faire. Hein. Et enfin, vous avez ici deux adresses. Mon fils est monteur professionnel pour la télévision et le cinéma, et il a une chaîne qui s'appelle Les Game Historiens sur YouTube, dans laquelle il met en rapport l'histoire, parce qu'il travaille beaucoup sur secrets d'histoire, il monte les secrets d'histoire, il met en rapport les jeux vidéo, les secrets d'histoire. Alors je lui ai demandé s'il avait fait des vidéos à propos de jeux vidéo qui s'intéressent à la conquête de l'Ouest, et il a fait deux, je dirais, vidéos qui durent chacune 5, 6, 7 minutes, pas plus, sur donc des jeux vidéo s'intéressant à la conquête de l'Ouest. Alors ça, ça peut intéresser vos élèves, je pense en particulier au 7K, au 7PA, voyez. Donc n'hésitez pas à donner ces adresses à vos élèves, et je dirais que les informations historiques sont sérieuses. Hein. Bon, voilà, autour du western italien. À côté de cela, en deux, dans le document, vous avez des documents pédagogiques. Alors, vous avez, donc pour une poignée de dollars, vous avez le livret du CNC, dont j'ai vu que certains d'entre vous avaient au moins le dossier pédagogique élève, hein, je crois. J'ai vu que vous l'aviez. Donc ici, vous avez le dossier pédagogique professeur complet. Vous pouvez l'utiliser, il est très très bien fait. Je ne vais pas y revenir puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure croise les éléments que vous avez ici. Et puis, vous avez la fiche élève, donc je pense tous vous avez reçu, hein, avec une étude de séquence. Et l'étude de séquence que vous avez ici, on va la voir tout à l'heure, mais très rapidement, parce que la séquence que je voudrais étudier avec vous en est une autre, puisque ici il est analysé, ce n'est pas la peine que je revienne sur la même chose. Bon, voilà. Puis, à côté de ces documents CNC, vous avez, je dirais, un document qui est édité par l'Académie de Poitiers. Vous savez, quand il y a l'opération École au cinéma, au Collège au cinéma, il y a beaucoup d'académies qui font paraître des dossiers spécifiques. Donc moi, je vais toujours chercher ce que font les collègues. Et honteusement, je l'avoue, je les absorbe et je le transmets aux collègues de l'Académie de Nice. Alors ici, vous avez des choses qui sont assez intéressantes. Et derrière, donc à côté de ces documents de Poitiers, je vous propose deux choses. D'abord, un cours plus général qui correspond à une conférence que j'avais donnée il y a quelques années sur le bruit, le son, la musique au cinéma. C'est une réflexion générale sur la musique au cinéma et sur les différents types de sons qu'on a au cinéma, qui le sont in, off ou hors champ. Alors, est-ce que vous connaissez cette terminologie ou est-ce qu'il faut que je vous l'explique? Parce que non, tout le monde connaît ou pas? Non. Alors, si vous voulez, le problème est un peu délicat, c'est que quand on lit des analyses filmiques, il y a des différences de terminologie d'un livre à l'autre, surtout selon qu'on lit un livre qui a été écrit par un professionnel du cinéma ou un livre qui a été écrit par un universitaire. Si vous êtes professionnel du cinéma, par exemple monteur, vous allez avoir deux types de sons. Vous avez le son in, qui est le son dont on voit la source à l'écran, il est dans l'image, et le son off, qui est un son qui est surajouté à l'image, dont on ne voit pas l'origine à l'écran. Par exemple, la musique. Par exemple, quelqu'un dont on entend la voix, mais qui n'est pas dans l'image. Vous voyez ? Sauf que pour Michel Chion, qui est un grand musicologue et un grand théoricien du son au cinéma, pour lui, il faut ajouter un élément qui est le son hors champ. Alors regardez, pour la terminologie anglo-saxonne, le son dont l'origine est présente à l'écran, on n'en parle même pas. Bon, le son qui est en dehors de l'image, il est off, off-screen. Et le son qui est un son surajouté à l'image, la musique, c'est over, voice-over, la voix qui vient par-dessus. C'est logique. En français, le son in, qui n'a pas de correspondant en anglo-saxon, on comprend bien ce qu'il veut dire. Mais le problème, c'est que le son qui est off en terminologie anglo-saxonne, c'est hors-champ. Par exemple, imaginons que je vous filme là et qu'on entende quelqu'un frapper à la porte en bas. On comprend bien qu'il y a quelqu'un dans la salle qui frappe. Ce son, il est hors du champ de la caméra. Il est hors champ pour Chion. Il est off pour les anglo-saxons. Mais alors, là où ça devient très ennuyeux, c'est que pour Michel Chion, si j'ajoute une musique, par exemple, comme on a entendu dans le générique, il n'y a pas d'orchestre à l'écran. Pour Michel Chion, le son est off. Et pour les anglo-saxons, c'est voice-over. Et le problème, vous comprenez, quand on dit, tiens, c'est un son off, est-ce que c'est un son off dans la terminologie française ou un son off dans la terminologie anglo-saxonne? Alors ça, c'est pour nous, hein, ce n'est pas pour les élèves, hein, on est bien d'accord. Mais il faut bien savoir de quoi on parle. Et moi, je disais à mes étudiants, je me moque éperdument dans vos copies de la terminologie que vous employez. Prenez celle de Chion ou celle des professionnels, mais ne mélangez pas les deux et précisez dans votre analyse laquelle des deux vous employez. Voyez ? D'accord ? Voilà. Bon. Alors, pardon ? Alors, bonne question. Excellente question. J'essaie de faire référence. Est-ce que vous voyez la séquence « Il était une fois dans l'Ouest » où on a Charles Bronson enfant qui a son frère pendu au-dessus de ses épaules. Ça vous dit quelque chose ? Non ? Bon, est-ce que vous permettez que j'ouvre une parenthèse ? Tant pis si on perd un peu de temps. Hein ? Bon, alors je vous montre quelque chose qui n'était pas prévu. Attendez, est-ce que je l'ai là seulement ? Je ne sais pas, hein, je ne vous promets rien. C'est peut-être une promesse de Gascon. Parce que l'ordinateur que j'ai là, c'est l'ordinateur de ma femme. Et donc, il n'y a pas tous les documents que j'ai sur le mien.
Amigo, you know you've got a face beautiful enough to be worth $2,000?
Yeah. But you don't look like the one who collected. A couple steps back.
Je vais répondre à votre question. Écoutez bien. Bon, vous avez entendu ce coup de guitare? C'est un son qui est ni hors champ ni in. C'est un son off ou over dans la terminologie américaine. C'est juste une petite note pour scander la séquence. D'accord? Ensuite. Vous entendez cheval arriver? Là, le son est « in » puisqu'on en voit l'origine à l'écran. Mais on a entendu le fusil se charger parallèlement. Donc, le son est hors champ. Là, le son qui était « in » avec le bruit de la chute et le hennissement du cheval devient hors champ. Et grâce au bruit, on entend que le cheval s'en va. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que par le son, on peut donner des indications.
Now.
Le son est hors champ.
No pistol, amigo. It won't do you any good.
Problème. Est-ce qu'il est in ou hors champ, le son-là? Les deux. Il est à la fois in, puisqu'on voit le personnage qui prononce les paroles à l'écran, et en même temps, il est hors champ parce qu'on ne voit pas ses lèvres remuer.
There are three of us.
Ensuite, on entend les cigales. In ou hors champ? Ben, il est in puisque les cigales sont peut-être dans le plan et hors champ parce qu'on ne les voit pas. Le vent, pareillement, a fortiori.
Amigo, you know you've got a face beautiful enough to be worth $2,000.
Alors regardez, ça c'est très amusant parce que le personnage il déplie la fiche pour bien vérifier que le truand est celui qu'il recherche, mais c'est en même temps une indication pour le spectateur. Et là, pareillement, le son est à la fois in et hors champ. Voyez. Donc, rire grâce.
But you don't look like the one who collected.
Bon. Pareillement, hors champ, in, etc. Que fait Léon ici? Il joue avec toutes les potentialités du son. Et donc, la distinction bien précise, bien universitaire que je vous ai donnée, ici, à l'épreuve du réel, est totalement approximative. Vous voyez? Et se pose la question maintenant, ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que c'est un son diégétique ou extra-diégétique? Alors, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la diégèse? Bon, alors, c'est un terme aristotélicien, c'est-à-dire qui vient d'Aristote. La diégèse, c'est l'univers dans lequel se déroule l'histoire. C'est-à-dire que si je vous dis colt, cheval, chapeau de cow-boy, je crée tout de suite un univers qui est l'univers du western. Sauf qu'un western de John Ford, un western d'Eastwood, un western de Léon ne seront pas les mêmes. En d'autres termes, la diégèse, ce n'est pas seulement le fait qu'il y a des composants obligatoires, le cheval, le pistolet, le colt aussi. La diégèse, c'est aussi l'univers du cinéaste, l'univers dans lequel les personnages évoluent, l'univers mental des dix personnages, mais notre propre univers à nous, subjectif de spectateur. En d'autres termes, je dirais qu'il y a la diégèse du film en général, celle qu'a voulu le réalisateur et celle que nous nous faisons, nous, en tant que représentation, en tant qu'émotion, vous voyez? Et un son est dit diégétique quand on voit son origine à l'écran, et il est extra-diégétique quand il est surajouté. Ça peut être soit la musique, soit ce qu'on appelle les fameuses voix off, c'est-à-dire la voix d'un commentateur qui est la voix de Dieu ou d'un personnage qui, revient sur ce qui s'est passé il y a longtemps. Vous voyez ? Alors, à ce moment-là, la voix off, la musique de concert, est dite extra-diégétique. Sauf que dans beaucoup de films de Léon en particulier, la musique peut être à la fois diégétique et extra-diégétique. Imaginons par exemple, j'en reviens, était une fois dans l'Ouest, voyez quelqu'un qui joue de l'harmonica. La musique est in, elle est dans le champ, elle est diégétique. La caméra panote vers quelqu'un d'autre, on entend toujours la musique. À ce moment-là, elle est toujours diégétique, mais elle devient hors champ. Et puis tout d'un coup, derrière l'harmonica, il y a tout un orchestre qui se déchaîne avec une guitare électrique, de l'orgue, que sais-je. Là, l'orchestre n'est pas présent à l'écran et la musique de diégétique devient extra-diégétique et elle devient non seulement hors champ, mais off. Vous voyez ? Et on peut passer insensiblement d'un espace à l'autre, d'un espace diégétique à un espace extra-diégétique, d'une musique in à une musique hors champ, à une musique off, tout simplement parce que par le biais du travail sur le son, on peut travailler sur l'espace mental du spectateur et l'espace même tout court, sachant que l'espace, c'est à la fois le temps et la durée au cinéma. Est-ce que je suis clair ? Alors tout ça, vous pouvez l'expliquer à des élèves, hein, simplement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot diégétique, encore qu'une fois qu'ils l'auront digéré, ils l'auront digéré. Mais leur dire simplement, regarde le son, on en voit l'origine à l'écran. Puis tiens, tu as vu, on l'entend toujours, mais on n'en voit plus l'origine. Puis tu entends la musique, c'est bizarre, elle vient d'où ? Bon, en fait, ça, vous pouvez leur expliquer très simplement. Hein.
En fait, un exemple peut-être facile aussi, on a les personnages dans une voiture, on les voit mettre une cassette ou la musique.
Voilà.
Ça, c'est la musique diégétique.
Voilà. Sauf que si vous voyez la voiture filmée de l'extérieur et que vous entendez toujours la musique avec la même intensité, elle est diégétique et en même temps, on triche complètement avec l'espace. Et en fait, ce qu'il faut faire, alors votre question va encore plus loin que vous ne pensez, c'est qu'il faut faire comprendre aux élèves qu'un des éléments de continuité dans un film, d'un plan à un autre, ce n'est pas forcément la continuité visuelle, c'est surtout la continuité sonore. Parce que si on est dans la voiture, qu'on entend la cassette, puis qu'on filme la voiture de l'extérieur et qu'on continue à entendre la cassette, on va créer dans l'esprit du spectateur un continuum qui n'est pas réel, au moins du point de vue spatial. Vous voyez ? Et il faut faire comprendre aux élèves que le montage au cinéma, ça n'est que de la manipulation. La propagande a parfaitement compris cela. Je vous rappelle ce que disait Lénine. De tous les arts, le cinéma est à nos yeux le plus important. Il détestait le cinéma, mais il avait parfaitement compris que le cinéma était ce qu'il y avait de mieux pour la propagande. Et Dieu sait qu'on a besoin de faire attention de nos jours avec les trolls qui nous investissent de tous les côtés. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Voilà.
D'accord. Donc, maintenant, ce qui est important, si vous voulez, c'est dans l'extrait que je vous ai montré, là. La musique, elle est totalement extra-diégétique et elle est évidemment en contrepoint didactique, c'est-à-dire, peu importe ici, elle est en train de donner un aspect ironique à une scène de massacre quand même. Vous voyez ? C'est provocateur quand même. Hein ? Vous voyez ? Alors, pourquoi ai-je choisi cet extrait ? C'était à la fois pour répondre à votre question et à la fois aussi parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un peu la même façon chez Léon de faire entrer Eastwood en scène, entre pour une poignée de dollars, l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, et la séquence ici. Sauf que, dans pour une poignée de dollars, il nous présente pour la première fois un personnage qui tente à être ridiculisé par son pochon et par sa mule. Ici, c'est Eastwood qui rentre en scène, et à sa voix et à son chapeau, le spectateur a reconnu que c'était Eastwood, que c'est celui qui est l'homme sans nom pour les Américains, et pour les Espagnols, c'est El Cigarillo, celui qui fume le cigare. Vous voyez, il avait un surnom. Si bien que paradoxalement, alors que dans chacun des westerns de Léon, le personnage n'était pas le même, celui que jouait Eastwood, et le personnage avait un nom différent d'un film à l'autre, petit à petit, dans l'imaginaire collectif, particulièrement américain, revenu en Europe, ça sera le même personnage. Vous voyez ? Comme quoi, des fois, la légende dépasse les intentions du créateur. Ça va, je suis clair ? Bon, voilà. Alors, je referme la parenthèse, si vous voulez bien, et nous en revenons donc au son. Puis, dans les documents, des news. Dans les documents que vous avez, dans les documents pédagogiques, vous avez ensuite une méthode pour l'analyse filmique, c'est-à-dire que ici vous avez la liste de toutes les questions que vous pouvez éventuellement poser à vos élèves. Ça, c'est un document que j'avais fait pour le rectorat à la demande d'un inspecteur qui voulait justement qu'on donne quelques pistes bien précises aux collègues pour mener l'analyse filmique en classe. Donc je vous remets ce document, il a quelques années, mais il est toujours valable. Et évidemment, encore une fois, à vous de choisir, en fonction de la séquence, ce que vous voulez analyser. Hein. Vous ne pouvez pas tout traiter, ce n'est pas possible. D'accord ? Voilà. Bon. Ensuite, vous avez donc les gammes historiens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé sur un blogspot un document assez époustouflant d'un fou qui est allé chercher toutes les images possibles et imaginables sur le tournage pour une poignée de dollars et sur, je dirais, la réception par le public, y compris, il y a des images tirées de la presse de 1964. Alors là, vous pourrez vous amuser un peu, il y a des textes en anglais, des textes en espagnol, et si vous voulez les découper, vous pouvez les découper en les collant ensuite sur un texte Word, et après vous pouvez récupérer l'image pour en faire ce que vous voulez. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant, parce que vous trouverez des documents qui ne sont disponibles nulle part ailleurs, et évidemment ensuite l'éternel Wikipédia qui vous donne quelques pistes pas mal. Puis, vous avez l'iconographie. Donc là, je vous ai mis l'iconographie pour les affiches, les disques, les photogrammes, les photos de tournage. Par exemple, ici, vous pourrez tirer, je dirais, certains documents pour illustrer vos cours. Donc vous en avez beaucoup, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous verrez ça chez vous. Et vous avez ensuite quelques photos de monuments de vallée, parce que c'est l'endroit fondateur du paysage de Western, auquel Léon se réfère toujours. Monument de Vallée n'a servi à rien dans la conquête de l'Ouest. Hein. Rien du tout, c'est un désert. C'est dans le mi-chemin, enfin, c'est à la frontière de l'Utah et de l'Arizona, c'est un désert. C'est John Ford qui a créé dans l'imaginaire collectif américain l'image du Western dans Monument de Vallée. Et beaucoup de westerns de John Ford ont été tournés sur un périmètre, enfin, sur un rayon de 15 km. Vous voyez ? Et pourtant, Léon, quand il va tourner, était une fois dans l'Ouest, il va tourner aussi au Monument de Vallée, en partie. Et puis, vous avez aussi, pour travailler sur le mythe de l'Ouest, quelques tableaux de Frederick Remington, qui est un spécialiste de la fin du 19e siècle, de cette représentation épique de la conquête de l'Ouest. Et vous verrez qu'à travers ces tableaux, on a déjà finalement toutes sortes de cadrages qui sont cinématographiques. Vous voyez ? Donc ça peut vous aider aussi pour aborder des cadrages auprès des élèves pour leur expliquer ce que sont les prises de vue. Donc là, j'essaie de vous mâcher le plus possible le travail pour répondre aux demandes qui m'ont été faites. Bon, à vous après d'explorer tout cela. Hein. Et puis, donc, vous avez les extraits. Alors, il y a deux extraits de Yojimbo, de Kurosawa, on verra pourquoi tout à l'heure. Vous avez des extraits de Pour une poignée de dollars et d'autres films que je vais utiliser ici, que vous pourrez utiliser avec vos élèves. Et ces extraits, ce sont ceux-là que je vous conseille de prendre parce qu'ils sont en stéréo. Les extraits que vous avez ici en 6CH, c'est des extraits en 5.1. Alors selon la façon dont est équipée votre salle, vous pouvez avoir des ennuis avec vos haut-parleurs. Donc prenez plutôt les extraits numéro 2. Hein. Et enfin, vous avez derrière des extraits d'autres westerns de Sergio Leone pour, je dirais, servir de point d'appui à vos cours. Tenez, je vous en montre un, comme ça, après je n'y reviendrai pas. Je vous en montre deux. Parti à Monument de Vallée, donc dans l'Utah, et pour partie à Almeria, donc en Espagne. Vous voyez ? Et il était tellement maniaque qu'il faisait venir des États-Unis des camions de terre rouge pour les répandre sur les studios, non seulement à Almeria, mais surtout à Rome, de façon à donner l'impression de continuité spatiale. Pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas seulement pour l'anecdote, c'est parce que tout à l'heure nous y viendrons, il faudra que vous fassiez comprendre aux élèves aussi que l'espace au cinéma, particulièrement dans le western, c'est un espace totalement reconstruit, il n'existe absolument pas comme tel. Donc, le cinéma est aussi un bricolage de différents éléments. Donc ça, vous le savez, mais c'est en prenant des exemples à partir des quelques extraits que vous aurez dans le dossier, que vous pourrez déterminer tout cela avec vos élèves. Vous voyez ? Donc, vous comprenez qu'à chaque fois, j'essaie d'excéder le cadre même de Pour une poignée de dollars pour vous donner des pistes pour les autres films que vous êtes susceptibles de voir avec vos élèves. Voilà. Bon, donc si je fais un bilan d'étape pour l'instant, nous avons analysé la première séquence et le générique pour montrer en quoi cette séquence et ce générique sont extraordinaires au sens de ne respectant pas les codes habituels du western. Ensuite de cela, je vous ai donné tous les documents. Vous aurez aussi dans les documents le conducteur, c'est-à-dire la liste de toutes les diapositives que j'utilise dans mon diaporama, et vous aurez aussi le diaporama que j'utilise actuellement. Alors si vous avez besoin d'utiliser les images du diaporama, bien entendu, ce diaporama il est complet, il est pour vous, il n'est pas pour vos élèves. Vous avez tout à fait le droit de le modifier à votre convenance, d'extraire des images, etc. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai essayé de répondre à deux questions. Un, en quoi ce western marque-t-il une date et pourquoi aller le voir ? Ben justement parce qu'il marque une date et parce que dans la sensibilité des spectateurs, ce qui pour vous, élèves de 4e, 3e maintenant, fait partie du classique, en fait non, c'est révolutionnaire. Et vous savez qu'en littérature ou en art, c'est toujours la même chose. On commence par avoir quelque chose qui fait scandale, et qui devient classique à son tour avant d'être dépassé par autre chose qui fait scandale. En fait, ce qui a remplacé le western maintenant, ça a été dans un premier temps la Guerre des Étoiles, qui est en fait ni plus ni moins qu'un western dans l'espace, et maintenant, vous avez les Marvel, qui sont un prolongement de la Guerre des Étoiles, et qui sont en train de s'effondrer parce que les gens commencent à en avoir assez, il va falloir trouver autre chose à leur donner. Vous voyez ? Donc, vous faire comprendre à vos élèves que ce qui fait le succès de ce qu'ils regardent maintenant, ça sera complètement ringard pour leurs enfants. Et qu'il faut qu'ils se mettent en tête qu'ils sont déjà dépassés. Parce qu'il faut les provoquer un peu de temps en temps, vous comprenez, leur faire comprendre qu'eux aussi, un jour, ils seront dépassés. Quand ils auront 20 ans, ça sera des vieux, quoi, en gros. Hein. Bon, donc je plaisante, mais c'est une façon de leur expliquer, si vous voulez, de façon ludique, pédagogique, en quoi une œuvre qui est révolutionnaire devient au bout d'un certain temps classique. Vous voyez, quand il y a quelques années, on m'avait demandé de faire une intervention sur le cinéma du patrimoine, j'avais pris comme affiche celle de Pour une poignée de dollars et j'avais parlé des Tontons Flingueurs. Ce sont des films du patrimoine, ils sont en collège au cinéma maintenant. Mais il y a 15 ans, c'était impensable. C'était impensable. Vous comprenez ? Voilà. Tout simplement parce que les esprits évoluent et que la notion de culture évolue aussi. Alors, poursuivons, si vous voulez bien. Donc, ici, vous avez un projet d'affiche pour une poignée de dollars. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire avec vos collègues d'art plastique, peu importe. Quand vous faites l'analyse d'image fixe en collège, je sais que vous avez les différentes fonctions d'image, fonctions référentielles, fonctions conatives, etc. Je n'y reviens pas. Tout va bien pour vous. Tout est clair. Oui ? Oui ? Hein, n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour ça. Et puis, essentiellement dans une affiche de film, qui est une publicité, vous avez la fonction référentielle, c'est-à-dire le fait qu'on vous donne des éléments qu'il y a dans le film, et la fonction conative, c'est-à-dire des éléments qui font effort sur vous, latin conor, conari, faire effort, tenter de, pour vous pousser à entrer dans la salle, à acheter un ticket. Bon, dans cette affiche, vous avez tous les éléments du film. Le poncho, dont on ne sait pas très bien d'où il vient. La barbe, sachant que le héros de western traditionnel est glabre et propre, sauf cas exceptionnel. Le cigare que Eastwood détestait, il ne fume pas. Et en plus, le cigare qu'on lui demandait de fumer a un goût extrêmement amer et est absolument ignoble. Et Léon lui a dit, ça fait partie de ton personnage. Et Eastwood reconnaît une chose, c'est qu'il détestait énormément ce cigare-là, mais en même temps, ça le mettait suffisamment de mauvaise humeur pour qu'il soit en rogne comme il fallait pour tourner la scène qu'on lui demandait de tourner. Ça aide. Hein. Le Colt, évidemment, et les dollars, et derrière, bien entendu, la masse de cadavres. Sachant que, si vous voulez, cette affiche montre déjà Eastwood comme étant connu. Mais ce n'est pas cette affiche-là qui va être l'affiche d'exploitation première. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, vous m'avez demandé une bibliographie, la voici. pour le western européen, c'est pas spaghetti, vous avez les ouvrages de Jean-François Giré, qui est un spécialiste de la question. Ce sont des ouvrages qui valent 75 euros, hein, vous les trouvez d'occasion. La première édition est à gauche, la deuxième est à droite. Ce sont des œuvres d'art, c'est une encyclopédie, c'est un pur plaisir. Bon, mais c'est cher. Ensuite, vous avez, qui vient de sortir, 10 000 façons de mourir. C'est un ouvrage qui vaut 50 euros et qui est un point de vue d'un cinéaste anglais, monteur et réalisateur, sur le western italien et européen. Très intéressant, parfois subjectif, parfois discutable, mais très intéressant. Toujours en vente, 50 euros. Puis, venons-en à Léon. Alors, Léon, il disait ceci, « Je suis né dans le cinéma, mes parents y travaillaient, ma vie, ma lecture, tout tourne au cinéma. Donc, pour moi, le cinéma, c'est la vie et vice-versa. » Et d'ailleurs, il résumait cela par « cinéma, cinéma ». Il voyait la vie en cinéma. Il ne parlait, il ne vivait, il ne respirait que cinéma, sauf éventuellement pour les œuvres d'art, la peinture. Voilà. Il était un grand collectionneur. Alors, ce qui m'amène maintenant à des ouvrages plus spécifiques. Ce qui a commencé à parler de Léon et du western italien-américain, c'est dans les années 80, « Seul au monde dans le western italien ». C'est trois petits volumes, très intéressants. Vous les trouvez d'occasion, 150 euros les trois, j'ai regardé, hein. La revue du cinéma en 71, Sergio Leone, toujours disponible à 4,50 euros. Vous pouvez la trouver. Et les autres, vous les trouvez à quelques euros d'occasion. Le western italien, les bons, les sales, les méchants, les propres de Leone, ou Angelus, Sergio Leone. Bon, c'est très bien, mais ce n'est pas ce que je vous conseille encore. À conseiller, le premier ouvrage de fond, date des années 80, vous le trouvez encore d'occasion, pas très cher. Et à droite, sur 90 pages, vous avez... aux éditions Cahiers du cinéma, le livre de Toré, qui est pas mal du tout, et que vous trouvez à quelques euros d'occasion sur Rakuten. Bon. Ceux-là, je ne vous les conseille pas, par Ornese de Forinari, c'est un spécialiste de Léon, c'est un Italien, il est traduit en français. Ses ouvrages sont des mines de renseignements, des photos considérables en nombre et magnifiques en qualité. Le problème, double, un, il y a des erreurs. Deux, il déteste Sergio Leone, donc il dit pique-pente de lui. C'est assez curieux, il en fait son fonds de commerce et en même temps, il le démolit un peu. C'est curieux. Mais c'est surtout parce qu'il y a quelques inexactitudes que je vous déconseille. Sinon, ce sont de très beaux livres. Voilà. Alors, une bande dessinée sympathique, mais sans plus, de Noël Simsolo, qui était un ami de Leone. Et puis, une Amérique de Léange de légende de Filippo Portoli, ne l'achetez surtout pas, c'est illisible. Au bout de 50 pages, j'ai laissé tomber parce que, au bout d'un certain temps, quelqu'un qui écrit un livre, il est censé écrire français quand même. Hein. Voilà. Bon. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où le trouver. Pourtant, la couverture donne envie. Celui-ci vient de sortir, donc je vais le commander. Ces hommes qui s'aiment sans le dire, très intéressant, parce qu'une des choses qu'on ne voit pas suffisamment dans les films de Léon, c'est le thème de l'amitié. Ce qui n'empêche pas de se jouer des tours pendables, mais l'amitié est là, comme dans la Commedia dell'arte. Et puis, deux ouvrages fondamentaux. Alors, Noël Simsolo, Conversation avec Sergio Leone. Alors, en haut, vous avez l'édition originale. C'est un gros pavé. Voilà, gros comme ça. Sinon, vous l'avez l'édition de poche, aux éditions Cahiers du cinéma. Et puis, à côté, il était une fois en Italie. C'est un livre magnifique du point de vue visuel, écrit par Christopher Freling, qui est un Anglais, qui a été anobli d'ailleurs, c'est Sir Christopher Freling, qui est vraiment le spécialiste de Léon, actuellement. Bon. Alors, ces deux-là, vous pouvez les trouver sans problème. Je vous conseille avant tout les interviews de Léon, sachant que Léon, comme tout auteur, a un peu la grosse tête et est un peu menteur, comme tout le monde, donc vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Et puis, les deux ouvrages fondamentaux, donc le livre de Freling qui est Sergio Leone, il vaut 25 euros le livre, et vous en avez vraiment pour votre argent, Actes Sud, quelque chose à voir avec la mort. Et la traduction en a été faite par quelqu'un que vous connaissez peut-être, si vous allez au Festival de Cannes, vous savez, vous avez l'association Cannes Cinéma qui vous donne les badges, les accréditations. Eh bien, le président de l'association Cannes Cinéma, qui est aussi... l'un des fondateurs du BTS audiovisuel de Cannes où je travaillais, c'est un ami, Gérard Camille, c'est lui qui a traduit l'ouvrage en français avec l'aide d'un autre professeur du BTS. Voilà. Et puis vous avez le catalogue de l'exposition Léon qui a été présenté à la Cinémathèque et qui était présenté à Cannes aussi. Il était une fois Sergio Leone, c'est aussi très très bien. Et il a été écrit à la fois par Christopher Fredding et par Gianluca Farinelli, qui est le président de la Cinémathèque de Bologne et qui est, je dirais, quelqu'un qui est charmant, qui parle très bien français et qui est à la pointe de tout ce qui est restauration de films. La plupart des films de Leone, d'ailleurs, ont été restaurés à la Cinémathèque de Bologne. Vous voyez, voilà. Donc, ces ouvrages-là, et puis, évidemment, si vous avez des sous, là, c'est un livre en anglais qui est sur Il était une fois dans l'Ouest, je l'ai acheté, c'est une pure merveille. Il ne parle que d'Il était une fois dans l'Ouest, il vaut 70 euros, mais c'est un livre d'art et vous en avez pour votre argent, ne serait-ce qu'au niveau des reproductions. Donc, on m'a demandé une bibliographie exhaustive, je vous la donne, là voilà. C'est tout ce qui existe en français actuellement, je laisse de côté, évidemment, les publications des mensuels. Par exemple, en ce moment, vous avez un numéro spécial de Première, du magazine Première, qui vaut 15 euros, et dont une grande partie est consacrée, Il était une fois en Amérique. Comme il y en a eu un sur Le Bon, la Brute et le Truand, et sur Mon nom et personne, et ils sont toujours très bien faits. Voilà. Donc là, vous avez matière à faire. Alors, si je dois vous conseiller quelque chose, c'est ça et ça. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, vous aurez tout ça sur votre diaporama. Puis, j'avoue que les images sont belles, donc je n'ai pas résisté au plaisir de vous les montrer. Hein. On a le droit de se faire plaisir quand même. Hein. Voilà. Bien. Alors, maintenant que la bibliographie est terminée, venons-en un peu à Sergio Leone. Ça va ? Je ne suis pas trop fatigant. Vous voyez où je veux en venir ? Tout va ? Alors, à gauche, vous avez la maman de Sergio Leone. Son vrai nom, c'était Edwige Maria Valcarenghi, dont le surnom de scène était Bis Valerian, sa mère. Elle a joué dans le premier western italien, qui était La Vampire Indienne, 1913. Réalisateur de La Vampire Indienne, ben, Vincenzo Leone, alias Roberto Roberti de papa. Et lequel Roberto Roberti a eu d'énormes succès en tant que cinéaste au moment du muet, puisqu'il faisait jouer l'énorme diva de l'époque, Francesca Bertini, que vous avez en bas. Si vous avez la possibilité de voir la comtesse Sarah, vous allez pleurer à chaudes larmes. Voilà. Le problème, c'est que le père de Leone, quand Mussolini est arrivé au pouvoir, a pris sa carte au parti fasciste, en y croyant, et quand il s'est rendu compte qu'un des membres du parti avait pris des sous dans la caisse, il a dit « il ne va pas mieux que les autres », il a rendu sa carte, il a refusé de faire des films de propagande pour Mussolini, et il a donc été, comme on dirait aujourd'hui, blacklisté. C'est-à-dire que pendant toute la guerre, il a été mis de côté dans l'industrie cinématographique, alors que Mussolini avait lancé Cinecittà. Il n'a pas pu travailler, c'est la misère qui s'est installée, puisque Leone a vu petit à petit les tableaux que son père collectionnait quitter la maison pour acheter des sacs de farine ou de riz pour manger. Et c'est cette période de vache maigre, Leone va s'en souvenir toujours, puisque même à la fin de sa vie, quand il mangeait dans des palaces, il allait manger des cochonneries dans un McDo à midi pour bien se rappeler d'où il venait. Vous voyez ? Alors, voici Sergio Leone jeune et son passeport. Il est mort donc peu de temps avant d'avoir 60 ans. Et en fait, il était malade du cœur. Il devait avoir une transplantation de cardiaque, à quoi il s'est toujours refusé. Et il était en train de préparer un film qui aurait été absolument extraordinaire, qui était Les 900 jours de Leningrad. Mais en fait, Ennio Morricone dit qu'il savait qu'il ne le tournerait pas parce qu'il n'avait pas parlé de musique avec Morricone, alors que d'habitude, il préparait toujours la musique des années au préalable. Et d'ailleurs, Leone avait demandé à Jean-Jacques Hano, celui qui a fait Le Nom de la Rose, de reprendre le projet à son compte. Ce film s'appelait Les 900 jours de Leningrad. Hano va refuser parce qu'il considérait que ce n'était pas son projet, mais il va faire, lui, Stalingrad. Et il y a des une ou deux séances dans Stalingrad qui rendent hommage à Sergio Leone. Voilà. Vous l'avez peut-être vu, Stalingrad, avec Jude Law, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Alors, allons un peu plus rapidement. Vous avez un DVD qui vous met bien dans l'ambiance de Leone, que vous pouvez trouver pour pas très cher sur Internet, qui est une Amérique de légende. Et ce documentaire vidéo a été fait par Jean-François Giré, celui dont je vous ai présenté les ouvrages de fond sur le western européen. Et en haut à gauche, vous avez la Viale Glorioso. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement l'endroit où Leone, qui vivait dans un quartier du Trastevere, qui était un quartier populaire, s'amusait quand il était enfant et se cognait, plutôt pour s'amuser, avec les petits voyous du coin. Et c'est en souvenir de ces jeux d'enfants qui étaient fondés essentiellement sur des jeux de cow-boys et d'indiens que Léon va longtemps réfléchir. Et au départ, un de ses projets, c'était justement de traduire ces jeux d'enfants dans un film qui aurait dû s'appeler Viale Glorioso. Le problème, c'est que Fellini a fait entre-temps I Vitelloni, et Léon a dit, bah, le film est fait, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais il se souviendra toujours de ces jeux d'enfants dans tous les westerns qu'il va tourner, y compris dans son dernier film qui n'est pas un western, qui est Il était une fois en Amérique, si vous voulez. C'est-à-dire que l'enfance, les jeux d'enfance, les cow-boys et les indiens, ça a innervé toute sa culture et je dirais toute sa jeunesse. Vous voyez, c'est quelque chose de fondamental pour lui. Bon. Alors, il faut gagner sa vie après la guerre. Et que fait Léon? Ben, son père reprend un peu le travail après la chute de Mussolini. Il initie Léon aux ficelles du métier et Léon est engagé en particulier comme assistant réalisateur, voire comme figurant. Et ici, vous le voyez dans Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, le séminariste que vous voyez à droite, c'est Sergio Leone. Alors, pourquoi j'insiste sur ce passage-là? Ce n'est pas pour le plaisir de l'anecdote, mais c'est parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à côté de l'hyperbole, de l'exagération qu'il y a dans ces films, chez Leone, il y a toujours une volonté de réalisme qui est liée précisément à ce qu'on appelait le néo-réalisme, à la Vittorio De Sica ou à la Roberto Rossellini. Vous voyez, voilà. Et puis, il s'agit maintenant, pour Léon, de passer à la réalisation. Dans un premier temps, il est assistant réalisateur. Il aide énormément de réalisateurs américains venus tourner sur le Tibre. On disait à l'époque, Cineteca sur Tibre, si vous voulez, ou plutôt Hollywood sur Tibre, parce que les frais étaient beaucoup moins importants. On a tourné beaucoup de péplum. Et Léon prétend, par exemple, avoir tourné La poursuite de char de Ben-Hur pour William Wyler. Il disait que lui, en tant que réalisateur second d'équipe, il en avait été responsable. Je ne sais pas si c'est vrai. Il est tout à fait possible qu'il y ait participé. Qu'a-t-il fait exactement? Je n'en sais rien. Mais on peut y voir, ici ou là, effectivement, sa patte. Bon. Ensuite, si vous voulez, il réalise un péplum qui est le Colosse de Rhodes, après en avoir terminé un autre qui avait été entamé par un acteur malade, Mario Bonnard, qui était son maître. Et il en a assez de faire des péplums, surtout que le genre s'essouffle, que la crise s'étend au début des années 60 au cinéma italien. Il faut renouveler le genre. Et il va dire pourquoi pas un western. Et il va proposer donc le sujet de Pour une poignée de dollars. Alors, il va avoir pour sujet un film qui va s'appeler L'étranger magnifique, ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que était sorti en Italie Les Sept Magnifiques, titre original et italien des Sept Mercenaires de John Sturges, inspiré des Sept Mercenaires, des Sept Samouraïs de Kurosawa. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Alors, Léon y voit grand. Il voudrait Henri Fonda. L'agent d'Henri Fonda ne lui donne même pas à lire le scénario. Bon, James Coburn, il demande 25 000 dollars, c'est trop cher. Charles Bronson, il déteste ce scénario. Alors, ce qui est amusant, c'est que tous ces acteurs-là vont jouer ensuite pour Léon. Fonda, dans Il était une fois dans l'Ouest et Mon nom est personne. Coburn, dans Il était une fois la Révolution. Et Bronson, dans Il était une fois dans l'Ouest. Bon, alors Claudia Sartori, qui est une jeune femme qui travaille à une agence de William Morris à Rome, fait savoir à la société de production Jolie qu'elle vient de recevoir des États-Unis, tenez-vous bien, une copie 16 mm d'un épisode numéro 91 d'une série télévisée qui s'appelle Rawhide. Et Léon voit l'extrait, il n'est pas convaincu, mais il faut bien engager quelqu'un, et donc c'est l'un des deux acteurs principaux de cette série, Clint Eastwood, qui accepte le rôle pour 15 000 dollars. Une misère. Il dit, pourquoi pas aller prendre quelques jours de vacances en Espagne. De toute façon, le film ne sortira jamais aux États-Unis et je ne risque rien. Voilà. C'est un peu à ça que fait référence Quentin Tarantino dans Il était une fois à Hollywood, vous savez, quand le personnage incarné par Leonardo DiCaprio voit sa carrière s'effondrer un peu et aller tourner des westerns avec Sergio Corbucci, les réalisateurs qui existent, mais titres qui sont présentés dans le film de Tarantino qui n'existent pas. Voilà. Alors, Rawhide, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, c'est une série télévisée. Et vous voyez que Clint Eastwood, ici, est totalement à l'encontre de ce qu'il est normalement. Pas de barbe, le beau gosse de service, le gendre idéal. Hein? Et évidemment, pour le rendre plus vieux et plus dur, il va cesser pousser la barbe et il va devenir, je dirais, un peu crasseux dans tous les sens du terme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rawhide va continuer, même après le succès de la trilogie des dollars, elle va aller jusqu'en 1966, 217 épisodes quand même, hein, de 50 minutes chacun. Alors, vous écouterez sur Internet la musique, vous la connaîtrez forcément. Voilà. Alors, donc, Rawhide, histoire de cow-boy qui accompagne un troupeau. Pendant 7 ans, le troupeau n'arrive jamais à destination. Alors, voici des photos de Eastwood arrivant à Madrid. Je ne sais pas si vous voyez, il est très grand. Il fait 1m93, Clint Eastwood. 92. Bon, croyez-moi, quand il entre dans une salle, je vous l'avais déjà vu en vrai? Non?
Oui.
Croyez-moi, oui, vous l'avez vu en vrai, mais je veux dire en chair et en os, quoi. Oui? Non? Je peux vous dire que quand vous allez au Festival de Cannes, vous avez des fois la chance d'avoir des leçons de cinéma, des rencontres comme ça, vous pouvez voir les gens en chair et en os. Moi, j'en ai vu pas mal. Il y a 3 personnes qui m'ont impressionné par la cinégénie, la photogénie et par la présence, qu'on appelle l'aura. Il y a un tout petit bonhomme qui est Manuel de Oliveira. J'ai vu quand il avait 100 ans, ma femme est tombée immédiatement amoureuse de lui. Il était haut comme ça. Hein. C'est un cinéaste qui a tourné jusqu'à 106 ans. Et à côté de cela, il y a Nicole Kidman et il y a Clint Eastwood. Alors, Nicole Kidman fait 1m82, Clint Eastwood, il fait 1m93. Ça aide hein, quand même. Mais je vous assure, c'est des gens qui ont quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'ils ont en eux à la fois la cinégénie et la photogénie. Et il y a quelque chose de plus qui font que tout de suite, vous comprenez qu'ils sont là, qu'ils sont là, tout simplement. Voyez. Et cette présence, Léon va la trouver tout de suite. Bon. Et donc, ici, vous avez... Attendez, excusez-moi, je pense que j'ai... voilà. Vous avez ici... l'affiche de l'exposition qui a eu lieu à Paris et les premiers encarts publicitaires dans les journaux. Alors regardez, ça c'est intéressant pour vos élèves, une étude d'affiche. Regardez l'affiche de gauche et l'affiche de droite. Dans l'affiche de gauche, vous regardez bien, est-ce que vous voyez Clint Eastwood?
Non.
Ben non. Et le personnage qui tombe lui ressemble, mais ce n'est pas lui, tant plus que c'est lui le héros. Et dans l'affiche de droite, en revanche, vous le reconnaissez nettement, et vous avez derrière lui Guillaume Maria Volonté. Donc ça veut dire qu'entre les deux affiches, il s'est écoulé une portion de temps qui est la suivante. D'abord, il a fallu faire connaître Eastwood. Et on lui a fait poser des photos avec Marianne Corr, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait une vedette féminine. Léon, lui, ne veut pas de vedette féminine dans ses films, parce que, dit-il, une femme dans un western, elle retarde l'action. Elle ne sert à rien. Et il a raison. Je ne vais pas vous choquer parce que lui, c'est la faire valoir. C'est celle qu'on protège. Et puis, elle est là pour faire la popote, les enfants, et être sauvée par le héros. Elle ralentit l'action par les passages sentimentaux. Et il a raison. Parce que si vous regardez bien, la place de la femme dans le western américain, mais c'est honteux, hein, je veux dire, c'est la victime, celle que les Indiens enlèvent, assassinent, violent, et que le héros vient sauver ou pas. Bon. Léon, lui, quand il donne un rôle de femme, eh bien, dans Il était une fois dans l'Ouest, la femme est le pivot, c'est la seule qui a un avenir devant elle, c'est la véritable héroïne. Vous voyez? Bon. Donc, on peut contester ce qu'il dit du point de vue féministe et en même temps reconnaître que, sur le fond, le rôle dévolu à la femme dans le western traditionnel n'est pas génial. Hein? Bon. Alors, toujours une photo posée et regardez l'affiche en allemande, c'est le titre allemand, Für eine Handvoll Dollar. Bah, on dirait une affiche de film noir.
Ouais.
Vous voyez? On ne savait pas très bien quoi faire de ce film au début, c'est un tout petit budget. Et regardez l'affiche pour une poignée de dollars des années 60, la première que j'ai vue. Regardez le héros du fond, il est plus ou moins Eastwood. Hein. Ça n'est que dans l'affiche de droite où vraiment on a une ressortie au début des années 70, où cette fois-ci on reconnaît Eastwood complètement. Alors ça peut être intéressant, pas d'utiliser toutes ces affiches-là avec vos élèves, mais d'en utiliser une partie justement pour leur faire décrire le visage du héros et essayer de leur faire comprendre pourquoi. Et comme ça, vous pouvez les amener à comprendre ce que c'est que la starification. Puisque, regardez, là, aux États-Unis, il n'y a plus qu'Eastwood sur l'affiche, et vous avez le mythe qui se met en place, puisque dans Pour une poignée de dollars, il s'appelle Joe, dans, et pour quelques dollars de plus, il s'appelle le Manchot, c'est un chasseur de primes, et dans Le Bon, la Brute et le Truand, il s'appelle Blondin. Bien, aux États-Unis, il va s'appeler simplement l'homme sans nom. Et ça va revenir avec El Cigarillo. Et regardez maintenant, dans la ressortie des années 70, il n'y a vraiment plus que lui sur l'affiche, il n'y a plus bien de Maria Volonté, il n'y a plus de Marianne Corr, et il est devenu une immense vedette en quelques années. Vous voyez ? Voilà. Si bien que, quand on ressort le film dans les années 80, vous avez encore une fois une modernisation, puisqu'on n'a plus de dessin, mais une photo, mais la photo est fausse, puisqu'elle est tirée du Bon, la Brute et le Truand. Et puis à droite, vous avez une relecture de l'affiche américaine, qui est une sorte de copier-coller, un mélange, avec des anachronismes, puisque le pistolet qu'il porte est un pistolet qui n'est pas, donc, pour une poignée de dollars, c'est un pistolet plus ancien, un revolver plus ancien qui date de la guerre de sécession. Donc là, vous avez un mélange de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'influences. Cela, je vous le dis, vous vous en moquez, mais simplement, c'est pour vous donner, je dirais, quelques pistes d'analyse que vous pouvez faire avec vos élèves en préparation au film ou en lecture après la projection du film. Tout va bien ? Ça va ? Alors, nous en venons maintenant à un problème. Est-ce que ce film est un film vraiment original ? Est-ce que ce film est une copie, un remake, un plagiat, une œuvre originale, un pastiche ? Alors, regardez l'anecdote suivante. À la fin de 63, le chef opérateur Enzo Barboni, celui qui va réaliser les Trinità, tombe sur Sergio Leone. Il venait de voir Yojimbo, le garde du corps, avec Toshiro Mifune. Il parle d'un garde du corps qui offre ses services à deux bandes rivales. L'une vend de la soie, l'autre vend du saké. Mifune monte une faction contre l'autre, regarde le chaos qui s'ensuit, installé sur une tour de guet en bois, surplombant la rue principale du village. Leone est allé voir avec Carla, son épouse, le garde du corps, le soir suivant. Bon, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il adapte le film. Et tant et si bien que quand le film sort au Japon, c'est l'affiche japonaise que vous avez ici, le titre du Japon, c'est « Le retour de Yojimbo ». Donc, tout se passe comme si, au Japon, on revendiquait la paternité du film de Leone. Et pourquoi ? Et parce que Leone va avoir un procès sur le dos. Regardez ce que Kurosawa écrit à Sergio Leone. « Signor Leone, je viens d'avoir la chance de découvrir votre film. C'est une œuvre magnifique, mais c'est la mienne. Le Japon étant signataire de la Convention de Berne sur le droit d'auteur international, j'attends le versement de mon dû. » Alors Leone s'est fait bien avoir parce qu'il pensait que les producteurs italiens avaient payé les droits d'auteur, sauf que les Italiens ne croyaient pas à ce film à petit budget, de série B voire Z, et ils ne pensaient pas qu'il aurait un succès planétaire, et ils ont eu le procès sur le dos. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On dit à Leone, il faut trouver un moyen de défense. Donc, qu'est-ce que trouvent les gens qui représentent Leone ? Eh bien, on va dire que le film est inspiré d'une pièce italienne, Arlequin, serviteur de deux maîtres, et que Kurosawa lui-même a copié un livre américain, La Moisson Rouge, un livre noir. C'est pas très propre, hein. Mais finalement, on trouve un accord, c'est-à-dire que Kurosawa et son scénariste obtiennent 15% des recettes et mondiales et toutes les recettes d'exploitation en Asie, c'est-à-dire Japon, Formose, c'est-à-dire Taïwan, Corée du Sud. Et au bout du compte, lui et Leone, dans l'histoire, il est grand perdant, il ne touche rien du tout, et il perd même de l'argent, puisqu'il demande son dû, mais les papiers Colombo disent « on ne peut pas te payer, puisque le producteur espagnol a fait faillite, donc rien du tout ». Et Leone, il aura pour compensation les droits du film du Mexique, mais comme les Mexicains n'ont pas le beau rôle dans le film, eh bien le film n'a pas marché au Mexique, et Leone, encore une fois, a perdu de l'argent. C'est pour ça qu'il va produire, et pour quelques dollars de plus, pour se venger de ses producteurs. Voilà la petite histoire. Si on revient à nos précédents extraits, on peut dire que les deux séquences sont décalquées de Kurosawa. Et effectivement, ça pose, à côté du problème, je dirais, de droit, ça pose la question du problème du pastiche ou de la parodie. Et puis, la question de savoir si finalement Léon est vraiment un créatif ou s'il n'est pas surestimé, parce que c'est ça le vrai problème. Alors, déjà, la première des choses qu'il faut voir, c'est que ce sont les points communs, c'est-à-dire la musique ironique, le jeu de massacre et, je dirais, l'humour noir. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la violence. Bon. D'autant plus que cette violence, chez Kurosawa, elle fait partie de l'univers des samouraïs. Vous savez que Kurosawa lui-même avait une éducation de samouraï. Hein. Il savait manier le sabre. Donc il sait filmer aussi les jeux. Et puis, d'un autre côté, vous avez dans le western de Léon une transgression dont je ne sais pas si elle est volontaire, consciente ou non, mais c'est une transgression de ce qu'on appelle le code ACE. Est-ce que vous connaissez le code ACE? Bon, c'était un code de morale. Vous savez tous ou est-ce qu'il faut que je revienne dessus? Oui. Bon. Alors, si vous voulez, dans les années 20, vous avez peut-être entendu parler de Babylone, le film de Damien Chazelle, qui est sorti il y a un an à peu près avec Margot Robbie, qui a fait scandale puisqu'elle parlait, puisque ce film parlait justement du cinéma muet, de tous les excès qui accompagnaient les fêtes hollywoodiennes. Il y a eu un énorme scandale dans les années 20, après beaucoup d'autres, je laisse de côté, je ne vais pas entrer dans les détails, ça nous mènerait trop loin, mais qui a fait que les producteurs se sont dit « on va avoir des ennuis avec les ligues de vertu ». Donc, plutôt que d'avoir des problèmes avec les ligues de vertu, ils ont demandé à un pseudo-juriste qui s'appelait Ace, H-A-Y-S, d'écrire un code de bonne conduite pour les cinéastes, code auquel ils devraient se conformer. Et ce juriste a mis en place un code de restriction tel que, par exemple, il était interdit de représenter une chambre conjugale, j'ai bien une chambre conjugale, donc d'un couple dûment marié, hors du péché, avec un seul lit. Il fallait qu'il y eût deux lits. Il était interdit qu'un baiser durât plus de 3 secondes à l'écran. C'est ce qu'Hitchcock a tourné comme il faut dans Soupçon, par exemple. Bon. Alors, parmi ces interdits, il était interdit de représenter la violence sous un jour qui donne goût à la violence. Et en général, dans le western, on ne mettait pas dans le même plan le tireur qui tire, donc, et la victime qui s'effondre. Ce qui est exactement le cas ici, dans Pour une poignée de dollars, si vous n'avez pas une victime, vous en avez 4. Bon. En plus, si vous voulez, outre ce massacre, vous vous rendez compte que dans les deux cas, il y a finalement une tuerie totalement gratuite. En fait, que cherche Toshiro Mifune et que cherche Eastwood? C'est à se faire engager par une bande et à se faire payer très cher en montrant ce qu'ils savent faire. En d'autres termes, ils ont présenté leur CV. Ils viennent de passer un entretien d'embauche. C'est ça, hein? Et vous le dites aux élèves comme ça. Et à partir de là, vous comprenez tout l'aspect scabreux et amoral de la séquence dans les deux films. Reste maintenant le deuxième problème. Est-ce que le film de Léon n'est pas qu'un simple plagiat? Et est-ce qu'on est dans la parodie ou le pastiche? Alors, est-ce que là, la parodie et le pastiche, ce sont des choses qu'on explique plutôt au lycée? Et je pense que vous pouvez l'expliquer à vos élèves très simplement. Vous leur expliquez que la parodie et le pastiche imitent quelque chose de connu. Un film, un livre. Donc, le livre, le film s'appelle le texte, ou plutôt ce qu'on appelle l'hypotexte, c'est-à-dire ce qui est en dessous. Et le pastiche ou la parodie, c'est l'hypertexte, c'est-à-dire ce qui est par-dessus. En d'autres termes, on va parodier ou pasticher quelque chose que tout le monde connaît. On ne va pas parodier ou pasticher quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors déjà, ça signifie que le pastiche ou la parodie, dans un cas comme dans l'autre, j'insiste, sont un acte de respect puisqu'on fait référence à quelque chose qui est connu. On le reconnaît comme étant connu. Vous voyez, c'est un acte de reconnaissance. Sauf que la parodie qui est originellement en grec, veut dire un chant qui est à côté, donc un chant à côté de la plaque, une chanson fausse. La parodie, c'est une imitation moqueuse. Alors que le pastiche, et qui vient de l'italien du XVIe siècle, qui veut dire mélange de viande, pâté fait de petits, d'un mélange de toutes sortes de viandes. Petit pâté fait d'un mélange de toutes sortes de viandes. C'est ça le pastiche. Le pastiche, lui, est une imitation respectueuse. Alors, est-ce que ici on est dans le pastiche ou la parodie? C'est très difficile à dire, puisque Yojimbo était lui-même déjà une sorte de parodie de la violence de l'époque et des films de samouraï. Donc, s'il y a parodie, c'est une parodie de parodie. Et avec une amplification de 2 cercueils 3, on passe de 3 cercueils 4. Bon. Sauf que, si vous voulez, là où pour moi il n'y a pas, je dirais, plagiat, il peut y avoir pastiche, si vous voulez, pas parodie, pastiche, là où il n'y a pas plagiat, c'est qu'il y a un traitement radicalement différent des personnages. Les personnages, les malfrats dans Yojimbo sont des hableurs. C'est des grandes gueules, hein, pour parler vulgairement. Tous. Y compris et surtout le samouraï Toshiro Mifune, qui en fait beaucoup. Alors que dans le western de Léon, il y a des hableurs, sauf le chef des tueurs qui a compris en face de lui qu'il avait un danger véritable. Donc déjà une différence parmi les malfrats. Mais Eastwood, lui, il est au contraire dans la retenue. Et cette retenue est d'autant plus dangereuse et menaçante qu'il utilise le ton de la plaisanterie. Vous voyez? Et en plus de cela, ce ton de la plaisanterie est en quelque sorte marmonné, parce que essayer de bredouiller des répliques comme il le fait avec un mâchoire entre les dents, avec un cigare entre les dents sans l'enlever, vous verrez, c'est pas facile, il a dû s'entraîner longtemps. Et à partir de là, vous voyez que pour moi, il y a peut-être, je dirais, copie. Mais il n'y a pas plagiat au sens où c'est totalement repris. D'autant plus que, si vous voulez, le scénario de Léon faisait plus de 350 pages. Sachant qu'une page de scénario égale une minute de film, calculez le nombre de minutes. 350 minutes, ça fait un peu long comme film. Et en particulier, c'est la raison pour laquelle, premièrement, on a coupé la séquence de début où on explique l'origine du poncho, je vais y venir, parce que c'est important pour la compréhension du film. Et deuxièmement, cela vient du fait aussi que Eastwood a fait quelque chose que d'habitude les acteurs ne font pas, ce que Lee Van Cleef va faire aussi à son tour. Il a demandé à Léon de supprimer des pages et des pages de dialogue. En général, un acteur, il veut qu'on lui laisse des pages de dialogue. Eastwood a voulu, au contraire, supprimer tout ce qui était inutile, partant du principe que plus le personnage serait taciturne, mieux ça vaudrait. À ce moment-là, à lui de faire passer les idées par les éléments de microphysionomie. Et dans la mesure où Léon jouait du gros plan, pas la peine d'avoir des dialogues. Le visage est un paysage. Et ça, vous pouvez l'expliquer à vos élèves. Et donc, à ce moment-là, le gros plan, c'est plus seulement le plaisir d'avoir des trognes, comme je vous les ai montrés tout à l'heure, c'est aussi une façon de se passer de dialogue, une façon de se passer d'explication. Et à ce moment-là, donc, vous comprenez que l'esthétique, la narration et la pensée ne font plus. Ne font plus qu'une. Je sais plus. Bon, peu importe. Voilà. Est-ce que je suis clair? Voilà. Alors maintenant, reste à déterminer justement pourquoi on a supprimé le poncho. Alors je vais vous montrer maintenant deux extraits du supplément de pour une poignée de dollars que vous pourrez retrouver. Et à ce moment-là, vous allez voir que des fois une suppression, alors qu'elle enlève des informations, paradoxalement, elle enrichit en même temps l'approche d'une situation. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, je suis là pour ça. Hein. Alors. Ce qui est intéressant ici, c'est que le poncho, qui à l'origine expliquait que Eastwood n'était rien d'autre qu'un déserteur, finalement, devient un élément de mystère, et sans que Léon ne le veuille au départ, il va devenir un des éléments constitutifs du personnage. Et là, vous pouvez faire une réflexion avec les élèves, aussi bien dans un texte en français que dans un texte en anglais, ou dans un texte ou dans un film, c'est que ce qui constitue un personnage, ce n'est pas seulement son caractère, son visage, son corps, mais c'est aussi son costume, surtout au cinéma. Et à ce moment-là, le poncho va devenir un élément récurrent dans les westerns de Léon, puisque dans Pour quelques dollars de plus, le manchot va porter le poncho. Et à la fin du Bon, la brute et le truand, on va vous expliquer l'origine du poncho. Et vous allez voir cela, c'est assez curieux, parce que, vous allez voir que Léon a essayé d'expliquer pourquoi Eastwood porte un poncho pour une poignée de dollars. Voilà. Alors, dans l'extrait que je vous montre, c'est presque à la fin du Bon, la brute et le truand. Eastwood est vêtu d'un cache-poussière. Le truand et lui viennent de faire sauter un pont pour pouvoir traverser une rivière et aller chercher des dollars qui sont cachés dans un cimetière. Et après l'explosion du pont, les deux personnages traversent la rivière et Eastwood arrive à un endroit où il va trouver un soldat agonisant. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est que Léon déteste la guerre et il dénonce toujours la violence des massacres parce que, à la limite, un duel face à face, c'est une chose, une boucherie telle que la connaît la guerre de sécession, qui est la première guerre moderne, c'est-à-dire celle dans laquelle on peut se faire tuer sans savoir d'où vient l'élément meurtrier. Jusque-là, on se battait corps à corps, on se battait face à face, on savait qui vous tuait. Là, on ne sait même plus qui vous tue, vous voyez. Dans cette dénonciation de la guerre que fait Léon, il montre simplement un personnage très jeune, très beau, hein, au demeurant, qui peut faire penser d'ailleurs à un Eastwood de jeune, en quelque sorte. Eastwood, il se voit presque agonisé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est la seule fois dans le film où il montre un peu d'humanité. Il en a, mais il ne la montre jamais. Et cette humanité, elle passe par le partage du cigare, d'une part, et par le fait que, d'autre part, il dit au personnage, ben, repose en paix, il ne lui reprend pas son cache-poussière, il prend le poncho qui est à côté du blessé. Et ce faisant, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a un deuxième niveau de lecture qui intervient ici, c'est que Eastwood, reprenant le poncho, à la fin du Bon, la brute et le truand, c'est ce que Léon dit lui-même, il va repartir pour de nouvelles aventures et nous allons le retrouver au début de Pour une poignée de dollars avec son poncho et en d'autres termes, la trilogie des dollars, comme on l'a appelé, Pour une poignée de dollars et Pour quelques dollars de plus, le Bon, la brute et le truand, vont former une sorte de boucle qui tourne en rond. Vous voyez ? Voilà. Est-ce que c'est clair ?
C'est pas une citation.
Pardon ?
C'est pas une citation, c'est une autocitation.
C'est une autocitation. On est dans les films qu'on appelle des films méta-discursifs, c'est-à-dire qui réfléchissent sur eux-mêmes. Mais vous savez, tout le cinéma dit moderne, en fait, tous les films de Léon sont des réflexions sur le western et plus généralement une réflexion sur le mythe de l'Amérique. Léon disant, les Américains sont d'origine européenne, moi, Européen, j'ai le droit de réfléchir sur le mythe américain, puisque les Américains eux-mêmes ont pompé dans nos propres mythes. Donc, tout le cinéma de Léon, comme beaucoup de films des années 80, que ce soit ceux de Scorsese, de Tarantino, etc., sont des films qu'on appelle des films métadiscursifs, c'est-à-dire qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui réfléchissent sur le cinéma, qui réfléchissent sur l'histoire du cinéma. Vous voyez ? Voilà. Alors, troisième élément, si vous avez prêté l'oreille à la musique, c'est une musique qui est très douce, qui est très tendre, sauf que cette musique, on l'a déjà entendue dans un autre passage du Bon, la brute et le truand, qui est une musique qu'on jouait au moment où la brute faisait torturer les gens qu'il voulait faire parler. En d'autres termes, c'est une musique qui est chargée de couvrir le bruit des souffrances. Alors déjà, vous avez derrière cette musique très douce la référence à la douleur, à la mort et à la souffrance, mais vous avez une autre référence qui est directe celle-là, c'est la référence au camp d'extermination nazi où on torturait les gens, où on les faisait partir au travail en musique. Mais c'est une référence que revendique Léon, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Voilà. D'accord ? Donc vous voyez qu'à ce moment-là, on est dans des strates de lecture extrêmement complexes et pour l'avoir expérimenté avec des élèves de collège, je peux vous dire, moi, qu'en utilisant des mots très simples, on arrive à cela. D'accord ? Voilà. Bon. Alors, maintenant, il nous reste à voir un problème qu'on n'a pas assez évoqué, c'est le problème de la musique. Parce que pour que ce film fonctionne, il nous faut vraiment, entrer dans la musique. Alors, je reprends le diaporama. Bon, des sources d'inspiration, je n'ai pas le temps d'y revenir. Si j'ai le temps, je vous en parlerai. Vous avez des aspects. Les lieux de tournage, je vous en ai déjà parlé, sachant que celui-ci a été tourné essentiellement à Madrid, dans le nord de Madrid, et un petit peu dans la région d'Almeria. C'est-à-dire que vous avez ici, attendez, je ne sais pas si on le voit à peu près. Donc si vous voulez. Pardon. Voilà. C'est-à-dire que vous avez au sud de l'Espagne une province qui s'appelle Almeria, qui est ici, c'est une petite ville. Et au-dessus, vous avez un village qui s'appelle Tabernas. Et c'est du côté d'Almeria de Tabernas qu'on a tourné énormément de films, pas seulement des westerns italiens. Et en particulier, on y a même tourné des séquences d'Indiana Jones ou du Lawrence d'Arabie. Voyez. Et dans ces endroits-là, Léon a utilisé des décors tout faits parce que tout simplement, il avait très peu d'argent, comme je vous l'ai dit, et il fallait utiliser donc des éléments de décors déjà existants. Alors si j'ai le temps, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que malheureusement, l'heure passe, je voudrais vous parler de la musique. Bon. Donc, je vous montre des photos que j'ai prises en 2019 à Almeria, et vous voyez qu'on est vraiment dans les décors de western, qui font penser, évidemment, au désert du Mexique. Voilà. Alors là, vous avez un élément sur le personnage et le paysage. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Vous pourrez utiliser ce document pour vos élèves. Les décors, je vous en ai parlé avec Carlo Simi, sachant que lui n'a fait que les décors intérieurs parce que le reste, c'est de la récupération. Donc, vous pourrez en parler avec vos élèves. Si vous êtes intéressé par les décors, je vous mets un catalogue que vous pouvez trouver à 20€ sur Internet, à droite, il est superbe et vous aurez des reproductions absolument magnifiques des décors de Carlo Simi, qui était aussi un architecte. Et maintenant, nous en venons à Morricone. Alors, regardez la photo, c'est une photo de classe. Au milieu, derrière, à gauche, vous avez Sergio Leone, et à droite, vous avez Ennio Morricone. Ils ont été en classe ensemble. Voilà. Alors, Sergio Leone évoque ainsi sa rencontre avec Ennio Morricone. À peine suis-je entré chez lui. En fait, il ne voulait pas de Morricone, c'est ses producteurs qui le lui ont imposé. Ils ont dit rencontre-le au moins. Leone voulait Angelo Francesco Lavagnino, qui avait déjà fait pour lui la musique du Colosse de Rhodes. Bon, donc Leone dit à peine suis-je entré chez lui, qu'il m'annonce que nous avons été à l'école ensemble. J'ai cru qu'il bluffait. Pas du tout. Il me montre une photo de la classe de 5e élémentaire. Et je constate que nous y figurons tous les deux. Bon. Alors il dit à Morricone, je dis franchement, ta musique pour Duel au Texas, c'est archi nul. Du très mauvais Dimitri Tiomkin. Dimitri Tiomkin, c'était un grand musicien de western qui avait fait par exemple Alamo ou La Conquête. Alamo. Bon. À mon grand étonnement, Morricone approuve. Mais il faut bien vivre. Il m'apporte une chanson qu'il avait composée 7 ans auparavant pour une basse américaine, On the Wind. Je l'écoute. La voix du chanteur m'irrite. Cela tue tout le reste. Pourtant, je sais que quelque chose m'accroche. Bien, Leone demande à Morricone la matrice sans la voix du chanteur. Et cette matrice deviendra le thème principal du film que vous avez entendu dans le générique. Sifflé par un très grand siffleur qui s'appelle Alessandro Alessandroni, qu'on va entendre dans tous les autres westerns de Leone. Bon. Alors, les hommes se lient tellement d'amitié que Leone finit par dire que Ennio est mon meilleur scénariste, et à partir du Bon, la brute et le truand, Leone va faire écrire la musique à Morricone avant le tournage du film. Et par exemple, sur Il était une fois dans l'Ouest, le déplacement des personnages va être réglé sur la musique qui va être diffusée sur le plateau. Ce que Brian De Palma va faire lui-même après. Bon. Alors, voici l'analyse du générique de début, et après on va l'écouter et on va voir ce qu'on peut utiliser avec les élèves. Titoli, ça veut dire le titre principal. Démarre à la guitare sèche et une mélodie sifflée caractéristique. Bientôt ponctuée par un ostinato de 4 notes descendantes jouées par une flûte. Un claquement de fouet, des cloches et un chœur chantant « Nous pouvons nous battre ». Or, vous comprenez que d'habitude dans le western, la musique, c'était une musique issue de Wagner, de la musique symphonique du 19e siècle. Donc c'est une musique qui était essentiellement symphonique et grave. Léon, ici, lui, il utilise plutôt Rossini, et il est dans ce qu'il appelle son italianité, et il n'hésite pas à utiliser toutes sortes d'instruments, qui soient les plus classiques, de l'orgue, jusqu'aux plus étranges, non seulement la guitare électrique, mais des fois même la musique électronique. Bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Morricone va aller très très loin, puisqu'il va même des fois trafiquer la musique sur la table de mixage. Par exemple, pour Le Bon, la Brute et le Truand, il avait 27 pistes de différentes pour le mixage. Ce qui explique d'ailleurs que quand il jouait des musiques en concert, il lui était impossible de jouer la musique telle qu'on l'entend dans le film, parce qu'il n'avait pas cette table de mixage. Il devait donc écrire des adaptations de ses propres musiques pour le concert. Vous voyez ? Voilà. Alors, on a donc des éléments qui sont la flûte, le fouet, les cloches, le cœur chantant, la guitare électrique, le sifflement humain. Bon. Et puis, dans un deuxième temps, Léon veut un autre thème, qui est le thème du règlement de compte, qui est inspiré d'un western qui s'appelle Rio Bravo. Et le thème, c'est De Guello, c'est-à-dire le morceau de la mort, le morceau de la trompette qu'on joue au moment où on va vous égorger. Bon. Alors, Léon dit, je voudrais mettre le De Guello de War Horse. Alors, Léon n'était pas content, les Morricone n'étaient pas contents du tout. Je me suis cramponné à sa vision de la scène. Une danse de mort conforme à l'atmosphère du sud du Texas, où, d'après Sergio, les traditions mexicaines et américaines se mélangeaient. J'ai ressorti une berceuse que j'avais composée 2 ans auparavant pour un spectacle adapté de La Lune des Caraïbes et autres drames de la mer, de Eugène O'Neill, c'est-à-dire une musique pour une pièce de théâtre radiophonique, et je l'avais refourguée sans rien dire. Je l'ai rendue plus incisive en exaltant la solennité de la trompette qui annonçait le duel. Je la lui ai jouée au piano et j'ai vu que ça lui plaisait. En fait, il l'a roulée. Il a utilisé 2 fois des airs qu'il a réutilisés, en quelque sorte, et qu'il a, remasterisés. Alors, j'ai fait une faute à Eugène O'Neill, hein, vous avez vu, c'est pas Eugène, c'est Eugène. Hein, j'ai fait une faute, vous avez vu Eugène, hein, vous corrigerez, hein, je compte sur vous. Alors, maintenant, voyons ce que ça donne concrètement et pourquoi ça. Alors, juste une petite chose, les différents disques et différentes éditions de Pour une poignée de dollars. Et puis, la bibliographie pour Ennio Morricone, il y en a autant que pour Léon. Alors, il y a 2 livres que je vous propose, 4. Celui-ci, à gauche, qui est une merveille, c'est une interview de Léon avec un ami, et Léon revient, sur de Morricone, pardon, Morricone revient sur toute sa carrière. C'est très intéressant, pas toujours facile. À droite, c'est pour les collectionneurs, puisque vous avez la jaquette de la plupart de ces disques, sachant que Morricone n'est pas un musicien de western, hein, pas du tout. Il n'a fait que 31 musiques de western, d'accord ? Il en a écrit 500 de musiques de film. Et d'ailleurs, il refusait la plupart du temps les westerns qu'on lui proposait. Il n'y reviendra que pour Les 8 salopards, parce que ses enfants ont beaucoup insisté pour qu'il travaille avec Tarantino. Et puis, il y a un autre ouvrage, celui-ci que vous trouvez d'occasion, qui date des années 90, qui est très bien. Et celui-ci, qui est une Bible, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit, mais enfin, il fait 1000 pages, et chaque bande originale est analysée quand même avec beaucoup, beaucoup de pertinence. Donc, cet ouvrage-là, il date de l'année dernière, et celui précédent, il date d'il y a 5 ans, vous pouvez les trouver sans problème, ils sont à 25 €, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, vous avez de quoi vous lire, hein, vous m'avez demandé des références, vous les avez. Ouais. Alors, venons-en à la musique. Dire au générique que nous avons étudié tout à l'heure, je pouvais faire un travail avec vos élèves justement aussi sur la musique et sur la question de savoir quel type de musique convient à une séquence. C'est beaucoup plus facile de dire après c'est celle-là qu'il faut que sur le moment. En fait, vous pouvez faire une expérience, c'est montrer un extrait de film sans musique et passer plusieurs bandes différentes à vos élèves et vous verrez qu'il leur est bien difficile de retrouver la musique originale. Vous en mettez 2-3, vous faites l'essai, vous verrez, c'est pas évident. Hein. En revanche, ce qu'il faut retenir ici, si vous voulez, c'est l'aspect totalement novateur de cette musique parce que elle mélange non seulement toutes sortes d'influences culturelles, mais elle mélange aussi toutes sortes d'instruments, les plus exotiques soient-ils. S'il était besoin de faire venir un musicien de l'autre bout du monde, Morricone le faisait. Deuxième élément qui apparaît moins nettement dans la séquence que je vous ai montrée, mais qu'il est bon de savoir pour vous. Morricone a eu une enfance très pauvre, comme Sergio Leone, puisqu'il se souvient, pendant la guerre, d'être allé vendre des chaussures appartenant à son père pour rapporter un sac de farine. Et à l'issue de la guerre, son père, pour gagner sa vie, jouait de la trompette dans des bars où les Américains qui occupaient l'Italie à ce moment-là faisaient la fête, et Morricone accompagnait son père. Il était très jeune, puisqu'il a commencé à apprendre la musique à 6 ans. Sa première composition reprend à l'âge de 6 ans. Bon, il disait « c'est très mauvais, j'ai jeté depuis ». Mais le problème, c'est qu'après, il a voulu se lancer dans la véritable étude de musicale. Il est entré au conservatoire, et dans l'extrait du film de Ennio qui vous est montré là, il fait partie, je dirais, il faisait partie d'un groupe qui travaillait avec un professeur qui s'appelait Goffredo Petrassi. Et celui-ci était reconnu comme un des plus grands musiciens du temps, c'était le maître de Morricone. Et Morricone avait tellement honte de gagner sa vie en faisant des musiques de films qu'il prenait des pseudonymes, pas seulement pour passer pour un Américain, mais aussi pour cacher à son maître qu'il gagnait ainsi sa vie. Et il a fallu très longtemps avant qu'il ne soit reconnu comme un vrai musicien et comme un génie. Et il a énormément souffert du manque de reconnaissance des autres musiciens et particulièrement de son maître, vous voyez. Moi, je me souviens quand je discutais dans les années 90 avec des collègues de musique et que je leur disais que je collectionnais les musiques de films, ils trouvaient ça absolument débile, quoi. Ils trouvaient que c'était nul, mais vraiment, vous voyez, je passais pour un peu un racourni, quoi, si vous voulez. Mais je vous assure, les temps ont énormément changé. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à voir ma classe cinéma dans mon collège, c'était les chaînes à Fréjus, c'était en 95. Avec l'appui d'un inspecteur, eh bien, j'ai fallu que je me dispute pendant 2 heures avec le principal adjoint du collège pour lui faire comprendre que je n'en sais pas une classe avec gentil organisateur du Club Med. À l'époque, c'était un collège de 600 élèves. Il a fallu que je me batte pour avoir un téléviseur et un magnétoscope pour l'établissement. Pour l'établissement. Vous voyez le changement ? Et 5 ans plus tard, quand on a rénové le collège, là, il y avait... un téléviseur, un lecteur de magnétoscope et un lecteur de DVD par classe et un vidéoprojecteur par étage avec l'Internet dans toutes les classes. En 5 ans, comme ça a changé. Donc pour vous, c'est tout à fait normal, vous êtes des jeunes. Et moi qui ai vu le changement des mentalités, je peux vous dire que tout ce dont je vous parle maintenant, j'aurais fait ça il y a 30 ans à mes collègues, ils seraient sortis en disant « mais ils vous racontent n'importe quoi, hein, si vous voulez ». J'assure que c'est vrai, mais n'importe quoi, voyez. Bon. Maintenant, les films de Léon sont étudiés dans les grandes écoles de cinéma. Voilà. Bon, alors, tout ceci, donc, peut nous amener à une réflexion sur la bande-son, sur le rôle de la musique, et ce qui va nous amener maintenant à d'autres éléments, qui est une réflexion fondamentale sur ce qui est typique de Léon, à côté de la musique, à côté, je dirais, de la remise en cause de tous les codes du western, y compris de la morale traditionnelle, c'est... la dilatation de l'espace-temps. Bon, alors, c'est une chose que j'expliquais à mes élèves de 4e et de 3e de manière très simple. Je leur disais, voilà, on est en classe ensemble pendant 1 heure. Le temps qui s'écoule, c'est 1 heure pour tout le monde. C'est le même temps. Bon, sauf que moi, je me passionne et vous, vous empoisonnez. Donc, moi, je dis à la fin de l'heure, oh chic, c'est déjà terminé. Et vous vous dites, ouf, enfin, il a fini de bavarder. Ou l'inverse, si vous voulez. Bon. Et je leur disais, vous comprenez, le temps que nous percevons n'est pas le même en fonction de chacun d'entre nous. Et là, on est dans ce que Bergson appelait la durée. C'est-à-dire que la durée, c'est le temps ressenti. Et donc, il y a des passages dans les films de Léon où le temps est utilisé comme un temps réel, mais des fois, il est distendu au-delà du temps réel parce qu'il nous amène à ce moment-là dans le temps ressenti qui est la durée. Et c'est la raison pour laquelle les duels qu'il va mettre en scène, jusqu'au bon, la brute et le truand, vont aller crescendo dans l'attente. Parce que ce qui compte pour lui, c'est non seulement de jouer avec les nerfs du spectateur, mais c'est aussi de scruter le visage en gros plan des gens qui se battent en duel, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, à travers ces gros plans, on a le visage est un paysage et on voit tous les sentiments, la peur, la cupidité, etc. Bon, sachant que, et là c'est un point sur lequel il faut vraiment que vous insistiez auprès de vos élèves, une des différences fondamentales entre les westerns de Léon et le western européen en général, et le western américain, c'est la perception de l'avenir. Chez les Américains, jusqu'aux années 60, l'avenir est optimiste. Ça va changer avec la guerre du Vietnam. Même John Ford va changer un peu dans les années 60. Mais jusque-là, on voyait la conquête de l'Ouest comme une merveilleuse aventure pleine de promesses. Bon, depuis, on est revenu dessus avec les westerns européens, avec les derniers films de John Ford, avec les films de Scorsese. Hein, regardez Killers of the Flower Moon, il n'y a pas de doute là-dessus. Voyez d'ailleurs les films de Tarantino, voyez la Horde sauvage de Peckinpah. C'est plus du tout le mythe hein, qui vous est montré là. C'est l'idée, au contraire, que l'Ouest est fondé sur la violence et la domination du plus faible par le plus fort. Bon. Mais chez... traditionnellement, donc dans le western américain, l'avenir est optimiste. Sergio Leone disait, quand quelqu'un ouvre une fenêtre chez John Ford, il voit l'avenir. Chez moi, quand il ouvre une fenêtre, il s'attend à recevoir une balle entre les deux yeux. Et effectivement, si vous voyez bien, dans la trilogie des dollars, Eastwood passe son temps à chercher les dollars. Mais il en fait quoi? D'un film à l'autre, il est toujours aussi fauché. Vous voyez? Et en fait, il entasse les dollars, mais il n'y a pas de projet ni de fonder une famille, ni d'acheter un ranch, ni de poser sa vie tranquillement. Il n'y a que l'affrontement, l'argent qu'on encaisse, le fait qu'on s'en aille vers ailleurs. Et quand on retrouve le personnage au film suivant, il faut qu'il recommence tout. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas d'avenir. Et quand on évoque ici ou là, par exemple, on est pour quelques dollars de plus, le fait qu'on va créer une ferme, c'est de manière tout à fait anecdotique et je dirais pour être un peu dans les codes. Mais en fait, le personnage léonien n'a aucun avenir. Parce que la vengeance ou l'argent, en soi, ça n'ouvre sur rien, si vous voulez. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les personnages de Léon sont des morts vivants, sont des personnages des morts en sursis, en quelque sorte. Vous voyez ? Voilà. Alors, pour ce travail sur le temps, nous allons voir une séquence qui est la séquence pivot du film, non pas le duel final, vous aurez l'occasion de travailler dessus sur les inserts, etc., mais sur la séquence suivante. Marisol, donc la jeune femme qui est prise en otage par les Rhodos, a été capturée par les Baxter grâce à Eastwood. Et le fils des Baxter a été capturé par les Rhodos. En d'autres termes, chacun d'entre eux a un otage. Et il s'agit d'échanger les otages. Et donc, je vais vous faire assister à l'échange d'otages avec la place d'Eastwood au milieu, comme Toshiro Mifune, qui regarde les deux bandes s'affronter. Et c'est là qu'on va voir le travail sur la microphysionomie et sur peut-être l'humanité du personnage joué par Eastwood. Mais comment vient-elle? On va voir ça. D'accord? Et ça, c'est une... Oui. Je vous en prie. Allez-y. Voilà. Désolé. Bon, ben écoutez, ça va, vous avez le temps les autres? Vous avez encore... Ouais, c'est bon? Non, vous avez le temps parce que mon est 5h15, moi j'ai jusqu'à 5h30. Si vous êtes pressé de partir, allez-y. Hein. Bon, alors n'oubliez pas de demander à Madame Berthaud, enfin de prendre les documents. Et si vous avez besoin, vous me téléphonez, je vous donne les indications qui vous manquent. Hein. Voilà. Alors pour le plaisir, regardez l'extrait qui s'appelle L'extase de l'or, Ecstasy of Gold, et vous verrez ce que c'est qu'un concert donné par Morricone. 180 personnes sur scène, croyez-moi, ça vaut la peine. Merci. Voilà, 180 personnes qui jouent, hein, pas. Voilà. Bon, après ils font.
Se répartissent-ils dans l'espace? Bon. Ensuite, vous demandez la manière dont les deux otages sont traités, d'un côté comme de l'autre, quand ils sont libérés. Et quand ils reviennent chez eux. Et la troisième partie, donc première question, disposition dans l'espace. Deuxième question, la façon dont les otages sont traités. Troisième question, la manière dont Eastwood, donc Joe, se comporte. Comment analyser la manière dont il se comporte? C'est le plus important. Et puis, quatrième question, le temps. Et en particulier, comment le temps est-il traduit par la musique? Et est-ce qu'on est dans le temps réel? Est-ce qu'on est dans la durée? Est-ce qu'on est dans les deux? Parce que ce que vous pouvez faire, c'est demander toujours à un gamin qui a son chronomètre ou son téléphone caché dans son cartable de chronométrer la séquence. Donc, on a quelques minutes encore. Donc, vous avez les deux... passage, enfin les deux
comment dire, aux endroits de la ville tenus par les deux bandes rivales. Si vous avez remarqué, il n'y a personne d'autre comme spectateur. Hein? Pourquoi ? Pour des raisons de budget, il n'y a pas d'argent. Mais en même temps, ça correspond totalement au, comment dire, au propos de Léon, parce qu'il voulait un village fantôme. Vous savez, comme disait Cocteau, d'un inconvénient faisons un avantage. Et effectivement, c'est plus fort finalement d'avoir un village vide, comme on a là, plutôt qu'avoir cette foule de figurants qu'on avait dans Yojimbo. Vous voyez ? Deuxième élément, vous avez vu que Marisol est une esclave, qu'on peut considérer comme une esclave sexuelle, hein, il faut dire ce qui est. Alors, je ne sais pas si vous le dites à vos élèves ou pas, mais c'est le cas. Mais c'est une femme qui garde toute son intégrité, puisque la façon qu'elle a de refuser qu'on la mette à cheval, c'est sa seule façon qu'elle a de revendiquer le peu de liberté qui lui reste. Et donc elle fait comme si elle acceptait de rejoindre Ramon, pas parce qu'elle y est obligée, mais parce que simplement elle ne veut pas qu'on massacre son mari et son fils. Donc ça n'est pas par soumission personnelle, mais c'est par volonté de préserver les siens. Vous voyez la différence ? Tout à fait différent. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est un vrai rôle féminin, même s'il est muet. Vous voyez ? Bon. Ensuite de cela, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont la mère, qui est la chef de clan Baxter, agit avec son fils. Elle l'étreint parce qu'elle l'aime, elle le gifle parce qu'il a été mauvais. On ne doit pas se laisser prendre par un adversaire comme cela. Parce que, et de ce fait, elle a perdu un argument de poids contre son adversaire qui est Marisol. D'ailleurs, les Baxter, je ne vous raconte pas le film si vous n'avez pas vu, vous verrez. Bon, donc, ensuite, ce qui est intéressant, beaucoup plus intéressant, c'est la place d'Eastwood. Vous l'avez vu, il s'assied comme au spectacle, comme Toshi. Il a sa bouteille de tequila, il n'a pas du tout envie d'intervenir. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand il entend le petit pleurer, il regarde l'intérieur du saloon, mais il ne dit rien, il n'empêche pas le père de sortir, alors qu'il sait parfaitement qu'il va se faire massacrer. Et le seul moment où il intervient, c'est parce que l'aubergiste lui-même va chercher son fusil. Et comme entre les deux hommes, il y a une amitié qui ne se dit pas, c'est par amitié pour l'aubergiste qu'il va se mettre au milieu. Et qu'à ce moment-là, il va empêcher que la famille ne soit massacrée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, l'humanité du personnage ne se manifeste pas d'emblée comme dans un western américain, elle se manifeste, je dirais, par défaut. Et dans tous les westerns de Léon, l'amitié ne se dit pas. Elle se joue parfois par des actes qui aident, mais la plupart du temps par des trahisons, d'ailleurs. Hein. Bon. Et en revanche, il y a une évolution du personnage d'Eastwood par rapport à Marisol, qui est que dans la première séquence, je ne sais pas si vous avez vu, il lui jette un sourire de désir. Là, il lui jette un regard de compréhension et d'humanité. Et c'est là qu'il devient un personnage, entre guillemets, héroïque, et ce qui va expliquer d'ailleurs son changement d'attitude, puisqu'il va libérer la jeune femme et il va lui donner les dollars pour qu'elle puisse s'enfuir avec son mari et son fils. Et ça, c'est un changement qui se passe justement par la microphysionomie. Et à ce moment-là, vous avez deux choses à faire remarquer aux élèves. La première des choses, c'est que le gros plan crée au cinéma une proximité qu'on n'a pas au théâtre. C'est-à-dire, quand on voit le gros plan de Marisol, elle a des yeux magnifiques, hein, cette jeune femme, et les yeux d'Eastwood, on a l'impression qu'ils sont face à face, mais tout près l'un de l'autre. Parce que c'est le gros plan qui abolit l'espace. Ça, c'est pas propre à Léon, hein, c'est propre au cinéma en général. Mais le statut du gros plan, c'est un des éléments fondamentaux du langage cinématographique par rapport au langage théâtral. Vous voyez ? Et puis la deuxième chose, qui est importante aussi, c'est ce que Gilles Deleuze appelle la visagéité et la visagéification. Alors, est-ce que vous connaissez cela ? Non. Bon, peu importe les mots, je vous donne les notions. Est-ce que vous avez en mémoire Psychose d'Hitchcock ? Bon, vous savez qu'à un moment donné, Marion Crane, qui a volé de l'argent à son patron, avant de se faire assassiner, s'arrête au bord de l'autoroute parce qu'elle est épuisée, au bord de la route parce qu'elle est épuisée, et au matin, elle est réveillée par un policier. Vous voyez la séquence à peu près ? Ça vous dit quelque chose ? Bon. Et le policier la regarde, et il a des lunettes noires. Et Marion passe par toutes sortes de sentiments. Un, elle est réveillée, donc elle est étonnée. Ensuite, elle se dit « Mon Dieu, c'est la police ». Elle se dit « Mon Dieu, je vais être arrêtée ». Elle s'affole, elle essaie d'avoir une contenance, etc. Donc, d'un côté, vous avez le policier qui est impavide parce qu'il est derrière ses lunettes noires. Il représente la loi, je dirais même plus l'œil de Dieu, l'œil qui regardait Caïn, vous savez. Et elle, au contraire, elle représente la coupable qui se sent vue par l'œil de Dieu. Et à ce moment-là, Hitchcock joue sur deux visages. Le visage impavide du policier et le visage affolé de Marion. Eh bien, chez le policier, vous avez la visagéification, c'est-à-dire le fait que le visage du policier exprime une seule chose, qui n'est même pas le sentiment du policier, c'est l'œil de Dieu, l'œil de la justice qui regarde la coupable qu'est Marion. En fait, c'est une idée abstraite. Vous voyez ? Alors que Marion, elle est dans la visagéité, c'est-à-dire qu'elle passe par toutes sortes de sentiments qui se lisent sur les microphysionomies de son visage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début du film, Eastwood, il est dans la visagéification, c'est le gars impassible, le tueur froid. Et là, tout d'un coup, il a une part d'humanité et par un élément de microphysionomie, il passe de la visagéification à la visagéité. Voyez ? Alors, vous n'êtes pas obligé d'employer ces mots barbares hein, auprès de vos élèves, mais vous pouvez leur faire comprendre que tantôt le personnage est un archétype, l'anti-héros, tantôt il est, je dirais, un personnage incarné plein de pitié. Et pourquoi ? Parce que là derrière, vous avez, c'est la dernière chose qu'il faut faire voir dans cette séquence, une image évangélique, biblique. Est-ce que vous avez vu laquelle ? Oui.
Là, dans cet extrait ?
Ouais.
Bah, pour moi, Marisol représente la Madone.
Exactement. Comment s'appelle le petit ?
Jésus.
Et voilà, Jésus. Donc vous prenez sa Sainte Famille.
Ah, complètement.
Voilà. Parce que je me c'est la Sainte Famille, absolument. Et évidemment, Eastwood, ici, il méprise le Père, Saint-Joseph, parce que lui, tu ne fais pas ton boulot de protecteur. Oui. Quoi. En gros, c'est ça. Oui. Toi, ramène le gosse à la maison. En d'autres termes, tu es la femme de service. Oui. Mais ça n'empêchera pas qu'il ira les délivrer tous.
Il ira les délivrer, parce que là, je l'ai trouvé dur dans cette scène.
Oui. Voilà, vous voyez, alors je vais vous récapituler maintenant pardon, quelques pistes pédagogiques et ensuite, pour un peu de plaisir, je vous montrerai un petit extrait musical parce que vous devez commencer à être un peu fatigué, je suppose. Bon, alors, donc, ça vous l'avez vu. Donc, la définition de la musique de Morricone. Là, quand j'avais rencontré Morricone à Cannes, il m'avait dit, il ne faut pas écouter que moi, hein, c'est pas bien. Hein. C'est un sacré... Bon, tout petit budget. Donc, vous verrez dans l'anecdote ici qu'à un moment donné, on avait enlevé les fenêtres des lieux de tournage parce que la production ne payait pas. Il a fallu qu'un des producteurs vienne avec une valise de billets depuis Rome pour payer. Il risquait de se faire arrêter. Donc, Léon dirigeant ses acteurs... le cigare dont je vous ai parlé, les photos de plateau, le fait que certaines séquences ont été tournées par un assistant réalisateur, les éléments techniques, les objectifs et la pellicule qu'a utilisé Léon, le rôle des gros plans dont je vous ai déjà parlé, voilà, les inserts, c'est des très gros plans sur les objets, la notion que le visage est un paysage, le jeu avec le code et le creusement de l'espace, tout ça vous avez vu l'extrait, comme dans les marionnettes italiennes. Et puis, je dirais, l'humour noir, l'humour macabre, c'est-à-dire que le cimetière devient lieu d'affrontement et non plus lieu de repos, et la mort devient un spectacle. Hein? Bon, vous voyez. Donc là encore, on trahit les codes, normalement, on ne se lutte pas dans un cimetière. Alors c'est ce qui va se passer dans le bon, la brute et le truand. La censure, dont je vous parlais tout à l'heure, le scandale. Donc là, vous pourrez montrer cette fiche aux élèves pour leur expliquer tout ce qui, normalement, ne se fait pas et qui est moralement discutable.
Ah, c'est bien,
ça, c'est important. Puis, les lieux de tournage, la Sainte Famille, dont je vous parlais, le fétichisme des armes, avec le fait que Léon faisait reproduire les armes à l'identique par des armuriers spécialisés. Des fois même, il utilisait ce qu'il y avait dans les musées. L'arène qui est le sens du péplum, donc le duel comme dans une arène pour les gladiateurs, le jugement des armes et la durée, que vous pourrez voir avec quelques dollars de plus, le duel du bon, la brute et le truand, avec toujours l'arène du péplum et le cimetière tout autour, elle est morte tout autour, mais en fait ils regardent les gens s'affronter pour des dollars et la musique fait entendre les cris des morts qui se moquent des vivants. Et le fait que le film est sorti dans une toute petite salle, et cette bouche à oreille qui l'a fait fonctionner, qui a lancé le mythe de l'homme sans nom. Bon. Le pessimisme, je vous en ai parlé, et les pistes pédagogiques. Donc les différentes étapes de la conception d'un film, je vous en ai parlé un peu. L'affiche, on l'a vu. Qui est l'auteur? Ben, en France, c'est l'écrivain, le scénariste, le réalisateur, le musicien. Donc, c'est une question que vous pouvez vous poser. Aux États-Unis, vous savez que la notion d'auteur n'existe pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle des réalisateurs comme Eastwood ou Spielberg ont créé leur propre maison de production. Voilà. La notion de genre, qu'est-ce qu'un western? La notion de héros et d'anti-héros, les caractéristiques du héros, le visage au cinéma, l'entrée en scène du héros, on l'a vu, l'espace filmique, le temps et la durée, la théâtralité, l'humour, le pastiche et la parodie. On n'a pas tout vu, mais on en a vu pas mal.
L'humour et le tragique, parce que moi, quand j'ai revu le film dimanche, justement, le tout début, je me suis dit, mais mince, ça me fait penser à Roméo et Juliette. C'était bête, hein?
Eh bien, il y a, vous savez, de toutes les façons, dans le film, les films de Léon, il y a un mélange rabelaisien, vous savez, il y avait la thèse de Michael Babkin qui était Rabelais, la culture populaire au Moyen-Âge. Mais c'est exactement ça chez Léon. C'est-à-dire que le tragique et le comique sont toujours intimement liés. Vous savez ce qu'on disait à propos de Molière, hein, descendre dans le comique, c'est monter dans le tragique. Mais c'est exactement ça. Mmh. Et vous pouvez voir, effectivement, je dirais Roméo et Juliette, pour moi c'est plutôt une vision de la Sainte Famille, mais chacun d'entre nous met derrière le culte qui est la sienne. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, ça c'est pour montrer que Léon est devenu quelqu'un de reconnu, c'était à Cannes, et bon, ça c'est Eastwood en 2017, et voilà un portrait de Léon fait par sa fille. Donc vous avez de quoi montrer à vos élèves, à vous de faire le tri, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, parce que je vous ai mis quand même plus de 100 diapositives. Malheureusement, je n'ai pas d'enregistrement de pour une poignée de dollars en concert, mais je vais vous montrer l'enregistrement en concert à Venise du passage où le truand, dans le Bon, la Brute et le Truand, court à travers les tombes dans le cimetière pour trouver la tombe où il y a 200 000 dollars cachés. Et comme je vous le disais, Léon a considéré ce passage, et Morricone surtout, comme un passage où les cris qu'on entend, ce sont les cris des morts qui se moquent des vivants, qui se déchirent pour rien, en fait, si vous voulez. Et le passage s'appelle l'extase de l'or. Alors moi, j'ai vu plusieurs fois Morricone en concert, et quand il avait la salle suffisante, il avait 180 personnes qui jouaient avec lui, c'est-à-dire qu'il y avait un orchestre symphonique au complet, avec des instruments extraordinaires, hors du commun. Il avait beaucoup de percussions, il avait sa pianiste attitrée, et sa cantatrice attitrée, et derrière il y avait un chœur avec un maître de chœur qui lui servait de relais, et ils étaient 80 à peu près. Donc vous comprenez qu'à ce moment-là, vous avez une ampleur dans le...